La plage. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par la place.
Eh bien, écoutez, bienvenue à La Place, le centre culturel hip-hop, dans cette rencontre au sein de la L2P, donc l'unique convention dédiée à cette culture. Une rencontre qui pose la question de la place de la femme dans le hip-hop. Alors plutôt que de raconter cette place de la femme, je vous propose de rencontrer ces femmes. D'où viennent-elles? Comment et pourquoi elles ont commencé leur discipline dans les années 90, voire 80 pour certaines? Était-ce un besoin vital d'expression? Ou un combat personnel? Était-ce une forme d'engagement féministe? Je vous propose donc de rencontrer certaines de ces femmes qui ont fait le hip-hop d'hier et qui font encore le hip-hop d'aujourd'hui. Graffeuses, tagueuses, DJ, danseuses, breakeuses et rappeuses. Je suis Yasmina Benbekaï et je vous demande d'accueillir ces pionnières présentes aujourd'hui. DJ Pomme, elle est là. Tu es une des premières femmes DJ en France. Tu commences au début des années 90. Tu découvres le mix grâce à des prestations de DJ, des DJ de IAM sur scène. Et c'est DJ Prodige qui va te montrer les techniques du DJing. Tu pars rapidement mixer avec DJ Chabin, DJ Abdel, Dynasty et tu enchaînes les scènes. DJ Tal et DJ Noise t'ont donné des coups de pouce aussi. Et tu rencontres des artistes de l'âge d'or du hip-hop français, alors Salia, Diams, Lady B-Side ou encore Stestros. Et grâce au DJing, tu as voyagé pas mal en Italie, en Norvège, en Suisse, en Suède. En 2006, tu mixes pour l'ouverture du Battle of the Year. On parlera du Battle of the Year avec Karima, qui connaît bien. Et tu as posé des scratchs sur quelques albums aussi. Tu as fait une pause de 4-5 ans. Mais tu reprends les platines, enfin, le retour de DJ Pomme, en juin prochain, avec l'association militante ASAP à Chevilly-Larue. Je pense que ça s'applaudit, non ? Fancy, voici un personnage hors norme.
Bonjour.
Fancy, toi, c'est le graffiti vandal.
Bah ouais.
T'es l'une des plus grosses graffeuses vandales d'Europe. Tu as commencé 90-91.
Ouais.
Tu faisais partie des fondateurs originels de SDK. Tu as créé un magazine sur le graphe qui s'appelle Explicit Graphics. C'était 90-91 également. Tu as monté des boutiques All City et le premier concept store de Bordeaux, Painted Black.
Ouais, tout ça.
Tu as fait aussi le graphe de la rotonde de la cité de Chanteloup-les-Vignes pour une des scènes cultes du film La Haine. Et grâce aux bombes récupérées sur ce tournage, avec ton crew, vous êtes partis faire des grosses pièces, des trains,
des
wagons.
C'est pas de notre faute, hein, c'est de la faute du film.
Voilà. T'as eu des bombes gratos, donc hop, on va les utiliser.
On savait pas quoi en faire.
Tu as également réalisé une maquette d'un train à taille réelle lors de l'exposition « Née dans la rue » à la Fondation Cartier, c'était en 2009. Et aujourd'hui, tu es productrice dans la musique, notamment du groupe Zwinkels et de l'artiste Gérard Bast. Et tu vas bientôt ouvrir ton salon de tatouage.
Ouais, je m'ennuie, je vais faire autre chose.
Son autre passion, ça s'applaudit également. Pascal Obolo. Personnage hors norme également. Ce sont toutes des personnages hors normes. Pionnière de la danse, du double dutch et même du rap. Tu fais partie du groupe exclusivement féminin les Ladies Night, créé en 1988 par le fameux danseur Tony Mascotte. Vous avez tourné avec les Little MC, Rapsonic, IAM, MC Solar, première partie de Big Daddy Kane à l'Élysée Montmartre, ou encore de Queen Latifah, qui vous appelait à l'époque les Frenchy Sisters. Oh yeah! Aujourd'hui, tu es commissaire d'exposition, cinéaste, chercheuse et rédactrice en chef d'une revue d'art. Lady Alésia. Lady Alésia, elle vient de Lille, elle a pris le seul train dispo aujourd'hui, donc ça c'est trop sympa. Lady Alésia, tu es pionnière du graffiti dans le nord de la France, tu as commencé le graphe début des années 90 avec une grosse période vandale, ça c'était à Roubaix, et au départ toute seule, puis avec les TDK et les NSK. Et après le lycée, tu débarques à Lille. Et là, tu connais tout le microcosme hip-hop et tu graffes sur des terrains plus ou moins autorisés. Et tu ne t'es presque jamais arrêté. Ton personnage fétiche est une lady qui a évolué au fil du temps, on en parlera. Et aujourd'hui, tes outils sont la peinture, la calligraphie, et tu es d'ailleurs prof de calligraphie latine. Karima baby. Karima Actuelle Force, pionnière dans le b-girling en France. Tu rencontres la culture hip-hop au Bataclan en 1983, voire un petit peu avant d'ailleurs. Et tu te lances dans le b-boying au sol en 1988. Tu fais tes premières scènes aux côtés de la rappeuse B-Love. Et tu intègres le mythique groupe Actuelle Force en 1989.
Coup de bol.
Comment ?
Coup de chance.
Ah, tu raconteras. Tu es la seule fille du groupe et tu n'as jamais lâché le break. Aujourd'hui, tu juges des battles internationaux. Tu transmets le break aux plus jeunes, notamment à Mayotte. Et tu es régulièrement consultée pour accompagner au mieux l'arrivée du break au JO à Paris en 2024. Princesse Agnès, wouhou, Princesse Agnès est là. Elle ne parle jamais, Princesse Agnès, donc on est trop contente de l'avoir avec nous. Tu fais partie de la deuxième génération de rappeuses en France. Tu es la plus jeune rappeuse de la compilation Labels qui était sortie en 1996 avec le morceau Qui représente. Tu es parrainée par le groupe parisien Diabus System avec qui tu collabores pendant une dizaine d'années. Entre 1995 et 1999, tu as participé à une cinquantaine de mixtapes, des compilations et tu montes aussi pas mal sur scène. En 1997, avec le rappeur Tepa, vous formez le premier groupe de rap mixte, Les Spécialistes. Premier album en 1999 et le label de Cool Chain, DNTM, signe votre deuxième album qui s'appelle Reality Show en 2005. En parallèle, tu sors un album solo autoproduit qui s'appelle Conte de Fées en 2002. Avec le morceau, le fameux morceau, Si j'étais un homme, qui dénonce les violences conjugales et également l'homophobie. Puis ton deuxième album, Au carrefour de ma douleur, tu parles entre autres de ton voyage au Darfour, aux côtés d'une association humanitaire. Un DVD d'ailleurs de ce voyage dans un camp de réfugiés accompagne cet album. En 1999, tu deviens la première rappeuse animatrice radio, c'était à Génération. Et en 2002, tu as lancé le projet Hip Hop Citoyen, un morceau collectif contre le Front National aux élections présidentielles en 2002. Aujourd'hui, tu as une boîte de prod et tu réalises des documentaires et des fictions. Merci d'être là. On peut l'applaudir. Alors bien sûr, vous aurez la parole tout à l'heure si vous avez des questions à poser à ces dames. Mais d'abord, moi je voudrais savoir... Enfin, je sais, mais vous allez raconter comment vous êtes rentrée dans cette culture, dans votre discipline, comment vous êtes arrivée à vous introduire comme ça dans le break Karima, dans le rap Agnès, dans le graffiti de Tag et le DJing. Karima, tu peux commencer parce que le break, c'est quand même une discipline très dure, très violente. On se jette au sol. Pourquoi tu as eu envie d'y aller? Pourquoi tu as envie de te jeter au sol? Et est-ce qu'il y avait déjà des filles à l'époque?
Non, mais c'est surtout que je n'ai pas voulu me jeter au sol.
Ah.
J'ai voulu développer.
D'accord.
Voilà, c'est ça. Mais pour raconter au début, parce qu'on parle souvent, oui, on est minoritaire, il n'y a pas assez de filles. Bah déjà, là, on prouve le contraire, Edin. Et que la première fois que j'ai vu de la danse, c'était à la Fête de l'Humanité en 1982. Donc, je suis partie, j'étais avec ma sœur et deux amis. On est partis au stand antillais. Donc, ambiance antillaise. Hein. Mais à un moment, ils ont mis une partie funk. Et on va un peu plus au fond de la salle. Et j'ai vu trois filles africaines, je pense. Et... faire du smurf. Et comme pour tous, je pense, quand on voit une partie du hip-hop, ça peut être le rap, peu importe, c'est un coup de magie, en fait. Et que là, il y a eu un gros déclic qui s'est fait. Je dis, c'est ça.
Le smurf.
Je ne savais pas ce que c'était, mais
ouais.
Non, il y avait une ambiance, en fait. Il y avait un univers qu'on ne connaissait pas. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais c'est une autre manière de danser par rapport à ce qu'on voyait.
D'accord.
Et on ne parlait pas encore de hip-hop ou quoi que ce soit. Et j'avais que 13 ans. Oui, fin 82, 13 ans.
Wow.
Et... par contre, à partir de là, je dis, il y a quelque chose qui est en train de se faire. J'ai eu la chance, parce que pour beaucoup, c'est une défaite, mais pour moi, c'est une chance d'habiter dans une cité. Donc il y a un univers, il y a un partage. On se retrouve dans un escalier. On n'a pas la chance de pouvoir aller chez les uns chez les autres. Donc chez nous, c'était l'escalier du coin. Et donc c'est là que je voyais déjà les garçons de ma cité commencer à accrocher. Donc ils ont commencé à faire de la coupole, etc. Enfin, il y avait un enclenchement, ça y est. Et j'étais avec ma grande sœur. Donc je la remercie, elle s'appelait Fatia, elle avait un an et demi de plus que moi. Et c'est avec elle, elle m'a amenée au Bataclan. Donc on partait avec beaucoup de gens du quartier et je dansais pas, j'étais que spectatrice.
Alors rappel au public, le Bataclan, c'est un lieu à Paris où il y avait des soirées, des après-midi même, voilà. Hip-hop.
Avec DJ Chabin au platine.
Voilà. C'était pas encore hip-hop bien, d'ailleurs, c'était plutôt...
Voilà, il y avait une partie hip-hop. Ce qui était bien justement, c'est qu'il y avait du jazz-rock,
ouais.
Hip-hop, funk, anti-reggae, Afrique, il y avait tout. En fait. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je mentais à ma mère pour y aller. J'ai très vite compris que ma mère ne me laisserait jamais sortir de chez moi. Déjà pour le basket, j'aurais dû faire une carrière de basket, elle me l'a stoppé.
Ah
donc
ouais?
J'ai dit, ok, c'est en fait, si je demande, ça ne va pas marcher. C'est reste à la maison, c'est tout. Donc oui, je mentais. Donc le dimanche après-midi, j'allais à la bibliothèque qui était fermée. Mais bon, voilà, donc tous les.
On faisait croire
en même temps, je ne conseille pas ça et je conseille même aux parents d'accompagner leurs enfants plutôt. Chose qu'on voit maintenant.
Oui.
Parce que j'étais très jeune et j'aurais pu être en danger en fait. S'il m'arrivait quelque chose, ma mère ne savait pas. Donc c'était encore plus grave, quoi. Donc c'est parti de là, ça s'est enclenché. Donc encore une fois, j'étais que spectatrice. Je regardais tout ce qui se passait, mais c'était un rêve. Et j'attendais que la partie, je crois que tu t'en rappelles, Pascal, parce que tu es allé au Bataclan, le moment quand on est tous là. No justice for the poor. Ça a été le moment magique.
Qu'est-ce que c'est ce moment,
c'était
Pascal, si tu peux prendre le micro.
Un moment,
il
mettait
si
cette
veux.
Musique-là.
Ah ouais.
Et on se connaissait, enfin, d'un coup, on se faisait des lignes, tout le monde se tient, et c'était en cercle, et on sautait comme ça. Et là où j'ai compris que ça commençait à mal aller, c'est, on avait tous des chapeaux, nous, on achetait à Clignancourt des casquettes en faux cuir, et c'est quand il y avait commencé à avoir des arrachages. Il y avait aussi la bombe lacrymogène qui arrivait, donc tu sens que l'énergie commençait à changer. Alors qu'au début, c'était très, je dis pas enfantin, mais c'était de l'amusement, quoi, en fait.
Et alors, la première fois que tu t'es... Une fois que tu as développé, parce que je te dis jeter au sol, mais que tu as développé le... Ouais.
Moi, j'ai commencé par la hype.
Donc la danse
et,
debout.
La danse debout. Et à l'époque, il ne faut pas oublier qu'il y avait que 3 chaînes à la télé, enfin, tout au début. Après, il y a eu M6, mais par la suite. Et tout dépendait des... C'était l'émission Yo, je m'en souviens. Ouais. Donc je crois que c'était le vendredi soir. J'allais chez un ami, Charlie, et sa copine Marie. Et eux avaient le câble, chose qu'on n'avait pas en banlieue. Donc je pouvais voir cette émission que chez lui. Ou chez des Parisiens, mais en l'occurrence, lui. Et je regardais et on prenait les pas qu'on voyait. Mais les Parisiens avaient toujours un temps d'avance par rapport à la banlieue, dans ce domaine, je parle. Et parce qu'ils avaient accès plus facilement aux chaînes câblées. Et donc, j'avais toujours un temps de retard et ça ne me plaisait pas. Et il y avait une sacrée danseuse que j'oublierai jamais, c'était Judith. Avec aussi une autre qui s'appelait Sonia, mais celle qui m'a marquée, c'est vraiment Judith. Ceux qui sont de cette époque la connaissent, en fait. En hop rock et tout, s'il y avait vraiment une fille qui a tapé, c'était elle. Et ça a été, en quelque sorte, un modèle, enfin, une référence, on va dire plutôt.
Elle a chanté aussi, elle a rappé
maintenant, elle
après.
Est dans le chant, mais ça a été une sacrée danseuse. Et donc, mais en fait, je me rendais compte que j'étais toujours derrière. C'est pas que je voulais être devant, mais je voulais pas être derrière quelqu'un. Donc, j'allais à la salle de Saint-Denis pendant des années, je regardais les b-boys. Saint-Denis, c'est chez moi, c'est pour ça que j'avais accès à cette salle, et je connais certains Actual Force depuis le Bataclan. Donc, j'allais les voir. J'étais collé au mur. Et je voyais que des performances, donc que des power moves. Les power moves, c'est ce qui est Thomas, coupole, tourner sur la tête, voilà, vraiment la perf. Mais un jour, et pourtant il y avait les passe-passe qui existaient, je vais dans une autre salle à la Plaine Saint-Denis et je vois Gabin, qui est un des leaders d'Actual Force, qui commence un mouvement de footrock. Footrock, c'est le côté danser au sol. Et je vois qu'il part d'un mouvement, il arrive à une finalité, il reprend le début, il arrive à une autre finalité. Et je dis, mais ça veut dire qu'on peut encore créer, en fait. Et je dis juste, donne-moi un mouvement. Et je vais faire ce que tu veux, ça veut dire développer. Voilà, souvent je dis, j'ai pas voulu danser, j'ai voulu développer. Et en développant une danse, ça me développait moi, en fait. C'est ça que j'ai ressenti, en fait. Et ça part de ça.
Génial. Fancy, toi, c'était plutôt une volonté d'exister. Voilà, on commence le tag pour...
Ouais, je pense que depuis que je suis toute petite, j'ai un léger problème. Je suis un peu dans la rébellion depuis toujours. J'ai un gros problème avec les institutions, avec la RATP, mes amis, la SNCF, encore mieux. Et avec tout autre enfin, avec, ouais,
l'éducation avec, nationale.
Entre autres aussi, oui. Ne faites pas comme moi, c'est mal. Ouais, voilà. Donc, en gros, j'ai commencé. Bon, je faisais du dessin. Je suis quand même rentrée au Gobelin, donc j'ai quand même été à l'école, tout ça. Mais très très vite, en fin de compte, cette sensation de pouvoir faire du dessin, de faire vibrer du graphe sur du roulant, faire chier le monde aussi, parce que c'était une grosse partie aussi de mon envie. Ça a été un déclencheur, mais après, le déclencheur, ça a été qu'avec effectivement de mon groupe, avec qui on a fusionné avec un groupe suédois qui s'appelle les UFC. On a fait un des plus gros groupes de graffiti hardcore vandale en Europe. On a fait absolument toute l'Europe. On est parti partout, en Pologne, dans tous les pays nordiques, bien évidemment, la Suède, la Finlande, voilà.
C'était mettre ton nom qui était important.
Oui, très clairement, mais de toute façon, à la base, le graffiti, c'est un peu...
Qu'on te voit, quoi.
Ouais.
Il fallait qu'on te voit.
Puis faire mieux que les autres, toujours, hein, plus gros, plus fort, plus... Voilà. Donc oui, effectivement, moi, je me suis... j'ai vite trouvé ma place parce que j'ai de toute façon, faut pas se mentir, hein, en tout cas dans le graffiti vandale, faut jouer des coudes, hein, un peu comme partout. Mais oui, moi j'ai beaucoup joué des coudes et je me suis sentie très très vite à ma place. Et il n'y avait pas de grosse différence entre avec mes acolytes et moi, quoi. Donc on a. Voilà. Mais effectivement, ça m'a. Je pense que très sincèrement, oui, c'est ma personnalité, le fait qu'il a fallu très très vite qu'en tant que femme, je me montre. Effectivement, je pense que j'ai eu très vite une envie de montrer que les femmes pouvaient faire autre chose que la bouffe, quoi. Et voilà. Donc j'ai passé mon permis moto avant mon permis voiture. J'ai fait chier le monde. Enfin, j'ai fait tout ce que je dois faire, ce qu'un mec aurait pu faire, mais en 10 fois pire, parce que les nanas, c'est 10 fois pire en réalité. Voilà. Donc,
DJ Pomme, Karima, elle parlait tout à l'heure de ses parents. Toi, tu t'es acheté tes platines, tu t'as acheté le matériel et il y a eu un moment de rupture avec tes parents, enfin en tout cas un membre de ta famille. Je veux bien que tu prennes le micro, Pomme.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Non, ça se... Voilà.
Tu m'entends ?
Non. Ah, on entendait ? Moi, je l'entendais pas. Pourtant, je suis à côté.
Ah, c'est bon ? Ah, super.
Ah, super.
Oh, excellent.
Ouais, un point de rupture, je disais, par rapport au matériel que tu t'étais acheté.
Oui,
t'avais commencé à te lancer.
Oui,
j'avais
vraiment commencé. J'avais fait des rencontres avec Salia, qui me disait, écoute, il y a un groupe américain au bain douche. Je t'ai invitée. Enfin, vraiment, c'était le Graal, quoi.
Salia, c'est une des premières rappeuses.
C'est une des premières rappeuses, donc, sur Apatitude. C'est une femme rappeuse qu'on peut entendre sur Apatitude, sur le titre Enfant du ghetto. Donc, c'est une référence au niveau de la culture hip-hop en France aussi. Et donc, effectivement, il y a eu un moment de rupture où où mon matériel a été dégradé, voire... anéanti.
Alors pourquoi ? Pourquoi on a pris ton matériel et on l'a jeté ?
Pourquoi on a fait ça ? C'était quand même tragique. C'est vrai que ça a été tragique dans cette belle histoire qui commençait à naître entre moi et le hip-hop. Cet amour, cette énergie que j'arrivais à m'approprier. Pourquoi ? Peut-être de la jalousie. Peut-être on voyait que ça allait trop loin et qu'on s'est dit il ne faut pas qu'elle aille loin. Il faut que... C'est pas possible, quoi.
Tu ne peux pas être DJ hip-hop.
C'est pas
possible.
Tu peux
pas être DJ tout court, quoi.
Il n'y a pas moyen. Et du coup, je pense que je me retrouve un peu dans le discours de Fancy, et enfin dans ce qu'elle dit. Et c'est vrai que moi, ça a décuplé en fait ma rage, en fait ma rébellion, parce que j'avais aussi un côté rébellion, un côté où j'avais en grippe l'injustice au sens large, quoi. Et du coup, j'ai retravaillé, et puis j'ai tout racheté et j'ai continué. Donc, tout ça pour dire que, quoi qu'il arrive, quand on a des rêves, on s'y accroche.
On s'y accroche. Pascal, le rêve, il a commencé il y a bien longtemps.
Un, deux.
Il a commencé il y a très longtemps, avant même qu'on parle de rap, même, puisque tu dansais déjà avant d'arriver dans ce groupe féminin qui s'appelait Ladies Night.
Oui, je suis très 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 ancienne, très ancienne. Je pense que je suis l'une des plus anciennes.
Ouais, pionnière de chez Pionnière.
Et en fait, En fait, je pense que le contexte, dans l'époque dans laquelle on vivait dans les années 80, pour des jeunes filles issues d'immigration, habitant dans un quartier populaire, c'est très important en fait, de le faire remarquer, parce qu'à cette époque-là, ces personnes-là étaient totalement invisibilisées dans la société française. Même du point de vue de la politique des villes qui était en fait mise à l'époque, c'est-à-dire que c'était pas évident, c'est-à-dire pour nous, pour aller au conservatoire, pour apprendre à faire de la musique, pour apprendre à danser, on n'avait pas les moyens, etc., etc. Et moi, je dis toujours que le hip-hop, c'est quelque chose qui m'a sauvée, quoi. Et l'école, l'école de la rue, c'est mon école, quelque part. C'est vraiment, c'est une école qui m'a formée, qui m'a appris, qui m'a donné des valeurs aussi, malgré que je venais d'une famille très militante. Mon père était effectivement journaliste, mais il avait écrit un article à l'époque contre le président. Moi, je suis originaire du Cameroun. Donc, c'est comme ça qu'on est venu ici, en fait, en France. Donc, moi, j'ai toujours baigné, en fait, dans le militantisme, dans le panafricanisme, etc. Et être jeune dans les années 80 en France, c'était difficile quand on était vraiment... n'en parlons pas, quand on était une jeune fille issue de l'immigration, c'était encore pire. On était totalement invisibilisés. Et en fait, moi, quand j'ai découvert le Smurf, ça a été un pur bonheur pour moi, en fait. C'est-à-dire, j'avais un cousin qui s'appelait Joss et qui, en fait, qui smurfait, en fait, avec des Weston au pied. Ça, c'est quelque chose qui m'avait toujours épaté. Et j'ai commencé à sortir très, très tôt, à l'âge de 13 ans.
Aussi, comme Kariba.
Ouais, j'avais une grande sœur qui m'emmenait en boîte, j'étais au Palace. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer, de voir des concerts incroyables. Et ma rencontre avec le Smurf, c'était avec des gens de ma famille, quoi. Cousins, tout ça. Je traînais au Trocadéro, Châtelet-Léal, Montparnasse. Et du coup, j'ai appris à smurfer avec ces garçons-là, quoi. Mm. Et effectivement, le Bataclan, moi, j'y dansais. J'avais un groupe qui s'appelait, avant de rentrer dans les Ladies Night, les Dutch Four System. Et les Dutch Four System, en fait, c'est le premier en fait, groupe en fait, que j'avais créé moi-même, qui était un groupe de double Dutch. Et on oublie à chaque fois que cette discipline, le double Dutch, c'est une des disciplines en fait, qui fait partie intégrante aussi de la culture hip-hop. Mais comme c'est une des disciplines qui, au départ, était uniquement pratiquée par les femmes, donc c'est une discipline qui a été effacée comme ça dans l'histoire du hip-hop. C'est-à-dire que quand on regarde les films, les livres qui ont été écrits même par des chercheurs, sociologues, anthropologues, quand ils parlent de l'histoire du hip-hop, il y a très peu de choses en fait qui sont, en tout cas... on mentionne très peu, très rarement. Moi, j'ai vu très rarement dans les bouquins mentionner en fait le double Dutch. Et c'est marrant, je lisais un article il y a 5 ans. Parce qu'en fait, comment moi j'ai découvert le double Dutch, c'est au Bataclan, avec quand Afrika Bambaataa est venu avec tout Futur à 2000, etc.
Le New York City Rap Tour en 1982.
Exactement.
Ouais.
Et dans le New York City Rap Tour, il y avait les World Fantastic. Champions 4, qui était en fait ce groupe de double Dutch, de 4 nanas, de 4 noires, femmes noires. Et j'ai vu ça sur scène, je me dis, mais ça, c'est pour moi. Enfin, une discipline, malgré que je smurfais, mais c'était une discipline qui était pratiquée uniquement par des femmes. Et je connaissais Solo à l'époque et j'ai été le voir et j'ai pu rentrer dans les backstage. Et ainsi, on a appris très, très vite en fait, à faire du double Dutch. On a été acheter des cordes à Decathlon, mais on a acheté des grosses cordes à grimper. Donc, on se pétait les jambes avec, etc. Et tout. Et petit à petit, on a appris par nous-mêmes. Et après, Tony est venu me voir et m'a dit, voilà, je vais monter un groupe... De danse avec que des jeunes filles et j'aimerais bien que tu intègres ce groupe qui s'appelle les Ladies Night et du coup aussi emmener le double Dutch en fait pour que ce groupe là en fait puisse pratiquer la plupart des disciplines. Et au départ des Ladies Night on était une dizaine de filles, on faisait évidemment de la hype, la danse africaine, du double Dutch. Et puis à un moment donné on s'est vite rendu compte qu'en fait que l'expression corporelle en termes de message ne suffisait pas. Et donc, on s'est mis en fait à faire du rap.
On en parlera de cette période de rap.
En fait, c'est quelque chose que, en tout cas, en ce qui concerne les valeurs, moi, c'est ça qui m'a construit. Et c'est ça qui fait que ce que je suis aujourd'hui en tant qu'afroféministe militante, je le dois en fait à la culture du hip-hop et au fait aussi d'avoir eu la chance d'avoir évolué dans les Ladies Night, parce qu'on était vraiment toute la question de la sororité, toutes ces choses-là, je les ai apprises avec elle.
Alors, tu as parlé de Solo, si vous avez envie de chercher plus tard en sortant tout à l'heure, c'est Solo d'Assassin. Et Tony, c'est Tony Mascotte, donc un danseur pionnier qui a effectivement réuni les jeunes femmes pour former les Ladies Night. Comment ça se passait, Lady Alésia, dans le nord de la France? Toi, tu n'étais pas en rébellion. Toi, ce que tu voulais faire surtout, c'était écrire ton nom.
Oui. Un, deux, ouais.
Tu voulais écrire ton nom, tu étais à Roubaix.
Voilà, en fait, je rejoins, je ne sais plus si c'est toi qui en as parlé, le fait de ne pas pouvoir sortir, d'avoir toujours des règlements, à des comptes à rendre avec les parents. Donc c'est vrai que je n'ai pas l'occasion de sortir aussi jeune. Donc c'est venu un peu plus tard. Mais en effet, petite, un peu comme Fancy, l'amour de la lettre, du dessin, du stylo. Moi, tu me donnes un stylo entre les doigts, je te fais... Enfin, voilà, je peux passer du temps à peaufiner. Et c'est vrai qu'à l'école, quand on est toute petite, je ne sais pas, on a 2-3 ans quand on commence, on nous donne un stylo pour apprendre à écrire les lettres. On fait beaucoup de coloriage aussi quand on est en maternelle. Donc c'était vraiment l'outil que j'affectionnais. Et un jour, on nous apprend à écrire. Et ce qui était cool, c'est qu'on a un stylo pour écrire. Donc il y avait vraiment ce rapport au dessin et l'écriture qui est venue dans la continuité. Et j'avais toujours eu une envie profonde et sincère de savoir bien l'écrire. Alors, non pas sur l'orthographe. Sur l'orthographe, sur la forme, sur le fond, mais vraiment sur la forme. Et ça s'est ancré dans ma vie. Et donc les premiers aspects, les premières notions de tag, de graffiti, c'était dans les rues, dans les villes. Et
toi, c'est le mobilier urbain qui t'intéresse, ouais, toi, les poubelles, les poteaux.
Truc anecdotique, c'est qu'on nous dit que c'est du mobilier urbain, donc c'est bien, on est d'accord, du mobilier public.
Ouais.
Donc si c'est public, c'est aussi bien à moi qu'à vous. Et donc je me dis, bah vas-y, c'est ma boîte à lettres, c'est mon poteau électrique, c'est mon, c'est mon banc, pourquoi pas, en sachant bien entendu que ça n'est pas mon banc, mais c'est le banc de tout le monde, donc il faut respecter, bien sûr, il y a la notion de respect. Mais ouais, ça, c'est mon kiff, ça, les arrêts de bus, enfin voilà, ça je kiffe mettre ma petite trace. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Tes débuts, évidemment. Les débuts, Princesse Agnès, comment t'es rentrée? Toi, t'es rentrée très très jeune dans le rap. Je l'ai dit tout à l'heure, t'étais la plus jeune rappeuse sur la compilation Labels qui était sortie en 95-96. Qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment de te lancer dans le rap? T'en faisais déjà avant, t'étais au collège donc. C'était quoi le déclencheur? C'était écrire?
C'était écrire, c'était... c'était le rap en lui-même, quoi, parce que j'avais quand même quelques références. Donc il y avait certains groupes qui étaient sortis, NTM, voilà, les Little, des groupes de rap un petit peu underground et tout à l'époque. Bon, après il y avait Solar aussi qui était assez connu, on va dire.
Ouais.
Et du coup, voilà, moi j'ai kiffé sur la musique, sur ce mouvement-là, parce que c'était quelque chose qui me parlait. Voilà, moi, les trucs de pop, les Johnny Hallyday, les trucs comme ça, c'est pas quelque chose... je sais pas, je me ressentais vraiment pas... ça me représentait pas. Et du coup, je trouvais, à travers leur texte, je me reconnaissais dans leur texte. Mmh. Et donc, voilà.
Est-ce qu'il y avait déjà une notion, pour toi, de culture hip-hop, ou c'était vraiment que le rap?
Pour moi, il n'y avait pas de notion de culture hip-hop, non. Moi, il y avait le rap. Si tu te poses pas vraiment de questions, hein, tu vis ta vie de collégienne, ou tu vois. Donc, tout ça, enfin, tu prends du recul quand tu es plus âgé et voilà.
Ouais, bien sûr.
Mais à l'époque, je kiffais vraiment cette musique. Après, j'ai commencé plus par le rap américain.
Ah
avec
ouais.
Public Enemy, des trucs comme ça, un petit peu revendicatif aussi. Et voilà, franchement, je ne sais pas si c'est votre cas, mais tu ne te poses pas de questions.
Tu
te lances comme ça, tu kiffes le truc et voilà, tu vis ton truc et tu te lances sans te poser de questions, sans te dire est-ce que c'est une culture, est-ce que je vais réussir. Pour toi, tu le fais, point barre. Quoi.
Est-ce qu'on peut dire que tu es une rappeuse engagée, toi, avec tous les textes que tu as sortis, avec les thèmes que tu prenais, que tu essayais de mettre, les injustices
Pour moi, c'est, de toute façon, la culture hip-hop, pour moi, de base, elle est engagée. Après, voilà, les choses, elles ont changé. À l'époque aussi, quand il y avait...
Alliance ethnique.
Ouais, voilà. Non, voilà. Mais même les premiers rappeurs D-Light et tout, bon, il y avait la fête et tout. Mais il y avait quand même, dans leurs agissements, de l'engagement. Pour moi. Après, ouais, j'ai pas la définition du hip-hop. Je suis pas là. Voilà. Mais, et petit à petit, bon, tu sais, c'est comme tous les mouvements, tous les courants, ils changent. Mmh. Et ça perd un petit peu la valeur de base, quoi. Mais alors, est-ce que je suis une rappeuse engagée? Je pense qu'ici, on l'est tous. On est tous engagés. Toi aussi. Si tu prends le micro et vous aussi, si vous participez à l'événement, c'est que ça vous intéresse, quoi. C'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, avant d'être commercial, c'était un mouvement. Et franchement, on se posait vraiment pas la question. Moi, je vois maintenant le rap, ce que ça génère en termes de millions, de thunes, le rap vraiment rap et même le graphe, hein, ceci dit, puisque dans les galeries. T'as des toiles et tout qui se vendent à des centaines de milliers d'euros. Pareil pour tout ce qui est danse. Y a des spectacles aussi, mais il y a quand même. Ils récupèrent un petit peu tout ce qui est.
On est les pauvres de la culture, nous.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai. Mais ils récupèrent quelques pièces à droite à gauche. Enfin, quelques acteurs danseurs pour les mettre dans leur show et voilà. Toi, l'ancien mec de Madonna. Qui était
Brahim Zaybat.
Voilà, c'est ça.
Ouais, je pense qu'on a tous un point en commun, c'est qu'il a fallu qu'on soit énormément passionné. Donc c'est ça. Quand tu es ultra passionné, tu te poses pas de la question de savoir en réalité
si t'es engagé,
en fin de compte, tu vas à fond dedans. Et effectivement, justement, dans des milieux où on gravitait autour de dizaines et de dizaines d'hommes. T'as intérêt à avoir une sacrée dose de passion et une sacrée dose de
coronesse.
Exactement.
Justement, vous étiez toutes avec des hommes, finalement. DJ Pomme, c'est des hommes qui t'ont donné la possibilité de monter sur scène. Pareil pour Pascal, c'est Tony Mascotte qui vous a réunis. Karima, Actuelle Force, évidemment, c'était des b-boys avec toi. Fancy, ton groupe, t'étais la seule femme. Pareil, Alésia, avec ton univers à Lille, univers hip-hop, il y avait très peu de femmes. Et toi, Agnès, c'est pareil, t'avais Diabus System d'un côté, Tepa, bon, qui faisait partie de Diabus aussi.
Qui est décédé,
paix à son âme. Et donc, finalement, les femmes, elles ont été validées par les hommes. Les pionnières, elles ont été validées par les pionniers. Il fallait être validé.
Fallait déjà se donner les moyens d'y arriver. C'est quand tu y arrivais qu'on te respectait. À part ça, dès que tu arrivais, on ne t'ouvrait pas les portes. Comme je dis souvent, on n'ouvrait pas la porte, mais on ne nous l'a pas claqué non plus. Je voulais juste préciser, elle a dit le mot en même temps, Princesse Agnès, on ne rentrait pas dans la culture hip-hop, et même pas dans le hip-hop. C'était le mouvement. Donc c'était tout le temps comme ça, on rentrait dans un mouvement. C'est ça le plus important, je trouve. C'était toujours en changement, en avancement. Il fallait chercher l'info pour savoir où était la prochaine étape, en fait.
Il n'y avait pas Internet. Hein. Donc, c'est-à-dire, le Peura, les trucs, tu vois, elle parlait du Bataclan, tu vois, et on devait aller à un endroit où, par exemple, pour le rap, en tout cas, tu devais avoir ta cassette. Je ne sais pas si vous connaissez.
Les cassettes.
Les cassettes audio, avec le stylo Bic pour rembobiner. Mais bon, il y avait les cassettes, voilà, tu avais ton petit Walkman et tu attendais l'émission, en fait, pour qu'elle arrive. Et tac, tu appuyais sur Rec, tu enregistrais toute l'émission. Et après, tu la réécoutais avec le FW et le RW, recto verso tout le temps. Et mais il y avait, voilà, il y avait ce... C'est nous qui allions chercher... Je pense que le hip-hop, il est venu à nous par hasard, comme tu disais, parce que tu t'es retrouvé dans le truc antillais, tu vois, et c'est venu à toi, tu t'es dit non, c'est un truc de ouf. Et je pense que c'est un petit peu tout le monde ici, quoi. On a regardé les murs, on a dit non, c'est quoi ce graphe et tout. Pareil pour le rap. Et après, c'est nous qui sommes allés chercher ce mouvement-là, en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est quoi ce truc de fou et tout, quoi. Mais voilà, il n'y avait pas Internet, donc maintenant, tu te mets n'importe où. tu vas n'importe où dans les, comme je te disais, les galeries, les
Il y a du hip-hop,
le truc
partout,
y a du hip-hop, oui. Tu vas à Monoprix, voilà, il y a des collections de je sais pas quoi, de street art avec des assiettes, tu vois.
Ouais.
Donc non mais c'est vrai, c'est un petit peu partout, tu allumes la télé, tu as Maître Gims, tu vois, tu t'allumes je sais pas, tu regardes les infos, ils te mettent un beat de rap pour tu vois, agrémenter le reportage, donc c'est le hip-hop, il est partout. Ouais. Mais nous à notre époque, en yeuve, je parle. À notre époque, non, mais c'est vrai, il n'y avait pas de, il n'y avait pas tout ça. Donc, ça rejoint ce que tu disais, c'est la passion. Si tu n'avais pas la passion pour être dedans, bah voilà. Et après, les mecs, ils nous respectaient aussi parce qu'on avait cette passion et on partageait ces mêmes valeurs. Donc, ouais, forcément, il y avait un.
Les mecs, souvent aussi, ils te respectaient, mais ils voulaient quand même que tu leur prouves que.
Ah oui, oui, bien sûr.
Voilà, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, on était toujours mis. Tu vois, on nous demandait en fin de compte de faire nos preuves et de les faire plus.
Ah, il fallait faire plus.
Qu'un mec, bien évidemment. T'es une nana, quoi qu'il en soit, on est toutes là avec toi parce que en réalité, on a réussi à avoir une place, une bonne place, tu vois. Mais parce que effectivement, on n'a pas fait semblant. On a été au bout d'une pratique, que ça soit dans la danse, dans le rap, dans le graffiti, on a
dans
été
DJ,
au bout.
Ouais.
Et surtout, on a joué des coudes. Hein. C'est ça le truc. Hein. Mais maintenant, comme la société, hein, on est en 2023, on parle de trucs il y a 30 ans, 40 ans, et on n'a pas fini de jouer des coudes. Et c'est bien triste, malheureusement. Mais là où on en est, c'est que ça n'a pas vraiment évolué. Qu'on est toujours obligé d'aller chercher encore plus loin, de prouver encore plus, de toujours faire plus. Voilà. Et genre, se crever plus, faire tout plus, pour justement. Et donc, dans ces trucs-là, où effectivement, pour être adoubé, entre guillemets, pour être accepté, il fallait quand même être super, super. Ouais, passionné, et puis ouais, enfin en avoir quoi. Fallait tout simplement montrer qu'on n'avait pas froid aux yeux. En gros, c'était tous les mouvements, hein, quels qu'ils soient, que ce soit le punk, le rap, la culture hip-hop, etc. Les nanas, il faut qu'elles en aient, très clairement, pour pouvoir s'imposer, tout simplement s'imposer dans un milieu d'hommes.
Jouer des coudes, DJ Pomme, ça a été pas facile aussi pour toi de t'imposer, puisque le DJing, bah, c'était vraiment un monde d'hommes aussi, que des DJ hommes. T'as rencontré une première DJ femme 8 ans après tes débuts, donc vraiment, t'étais toute seule. Il est arrivé, même si t'as été pas mal entourée par des DJ, qu'on te laisse pas la place.
Oui, oui, c'est des choses qui me sont arrivées plusieurs fois. J'ai même eu un cas de paiement de cachet en weed. En herbe, tu vois. Donc, why not, hein. Donc ça, c'est anecdotique, c'est rigolo. Mais ça montre aussi, il y a d'autres aussi situations où moins drôles, où effectivement, je me suis retrouvée à faire une soirée avec mon nom à l'affiche. Donc,
c'est DJ Pomme qui est invité
toujours,
à mixer.
Toujours,
voilà,
le nom à l'affiche, caché, négocié durement et pas toujours à hauteur égale avec les hommes. Ça aussi, c'est une autre problématique. Mais ça m'est arrivé de faire une soirée avec un DJ très, très célèbre, qui travaillait pour un groupe très connu, c'est-à-dire un groupe connu mondialement en France. Et du coup, ce DJ-là, bah, quand c'était mon tour, il n'a pas voulu lâcher les platines. Et j'avais beau me mettre près de lui, comme ça, m'avancer, encore. Le mec ne lâche pas. Donc, à un moment, je ne pouvais même pas avoir ma place. Et la soirée, on a tous un timing. À l'époque, toi, tu passes tant d'heures. Toi, c'est tant. Et puis, mon tour, il ne venait pas. Et moi, je me suis dit, ça c'est pas possible. J'en rageais, quoi. Donc, l'autre DJ qui était très connu, qui est donc DJ Chabin. Donc, c'est un DJ qui a une place centrale dans ce que j'ai pu après, dans ma rencontre avec ce mouvement. Hein, dont tu parlais, Karima, qui tourne sans arrêt, ce que tu disais, Agnès, qui, voilà. Et ben, du coup, lui, il a dû aller dire, écoute, il faut la laisser passer. Son nom, il a inscrit comme nom, il était 3. Donc, il faut que tu la laisses. Et ça a été très compliqué. Voilà, à ça, vous ajoutez l'ambiance de l'époque, les excès, voilà, hein, faut le dire, les excès, les trucs, l'ambiance et tout, mélangé au fait de pas vouloir céder sa place, tout simplement. J'allais ne pas passer. Et donc, après, on peut dire aussi, elle n'a pas joué. Mais est-ce qu'elle a eu l'occasion de jouer? En fait, c'est ça la question. Et j'ai pu jouer grâce à DJ Chabin qui a dit, mais non, il faut la laisser, elle est comme nous. Voilà. Et ça m'a marqué parce que le DJ, il gagnait peut-être pas des milliers des cents, mais il était reconnu et du coup, il avait une certaine notoriété. Donc, c'était intéressant de voir que quelqu'un avec une notoriété a du mal lui-même à laisser la place.
Et voilà. Puis, un célèbre chanteur d'un ancien groupe aussi.
Absolument, célèbre chanteur, primé aux Victoires de la musique, qui m'avait dit, je ne vais pas le citer, mais...
Vas-y,
oui,
non,
tu peux donner,
on s'était pas dit ça tout à l'heure. On s'était pas dit ça. Coup de fancy.
Fais leur plaisir, là, ils sont pas venus pour rien.
Alliance ethnique.
Kamel, Alliance ethnique.
Voilà, Kamel. qui me disait, mais comment tu fais pour mixer avec ton physique, quoi ? J'irai pas dans les détails, je pense que vous avez un peu d'imagination. Et du coup, ouais, ça m'a blessée, mais ce que moi j'ai voulu me dire, malgré ce qu'il me dit, je ne m'arrêterai pas. Donc c'était à Pointe-à-Pitre, on n'était pas en métropole, il y avait quand même DJ Abdel, il y avait beaucoup, beaucoup de grands groupes, Kassav, c'était vraiment du lourd quand on débute, c'est impressionnant quand même hein, de se retrouver avec des DJ aguerris. Et des champions du monde, parce que les DJ d'Alliance Ethnique ont gagné les championnats du monde plusieurs années de suite. De se retrouver avec tout ça et d'entendre dire que votre physique vous gêne. Non, il faut... Voilà. Donc, c'est un petit moment comme ça où vous vous dites, oh, est-ce que je l'écoute ? Non, vous n'arrêtez pas et vous continuez votre prestation. Donc, c'est aussi du sexisme, en quelque sorte, quoi. Voilà.
Et toi, ça ne t'a pas motivé ? Parce que moi, quelqu'un qui me dit ça, mais moi, je tue tout, quoi.
Quelque part, si ça m'avait embêté, j'aurais arrêté.
Ouais, mais encore plus.
Tu vois ? si, ça te motive encore plus. Je suis d'accord avec toi. Je pense que si on te dit c'est... t'es pas capable, tu vas dire si je suis capable.
Ou on te réduit à un physique en fait.
On te réduit à un physique, mais effectivement, je pense que t'as raison. Enfin, si je pense que c'est un moteur à un moment. C'est quand tu transformes ça en positif, quand tu transformes le négatif en positif, forcément, t'arrives à un résultat qui peut être efficient.
Pascal, on vous voit les Ladies Night dans la série Le Monde de Demain qui a été diffusée sur Arte, puisque vous étiez donc le groupe.
Sur Netflix.
Et sur Netflix, pardon. Il faut absolument dire Netflix. C'est placé.
Non, mais parce qu'ils ont Netflix, à mon avis.
Oui, ils ont Netflix, c'est pas Arte, peut-être.
Moi, je dis Netflix.
Ouais.
Le jeune à Netflix.
On vous voit. C'est un hommage pour toi de se voir comme ça dans une série. Alors, c'est vrai que ça raconte les débuts du hip-hop via NTM. Et puis, vous étiez assez proche des NTM.
Je sais pas si c'est un hommage, mais c'est un fait. C'est l'histoire. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que l'histoire du hip-hop a beaucoup été écrite par les hommes, comme je le disais. Beaucoup de films ont été réalisés par des hommes aussi, en ce qui concerne en fait ce mouvement. Donc à un moment donné, il y a certains faits qui se sont, des faits historiques qui sont connus par tous. Donc à un moment donné, on ne peut pas échapper à l'histoire. Donc quand on décide de raconter en fait... l'histoire d'un groupe mythique tel que les NTM. Donc au bout d'un moment, ils ont croisé d'autres groupes, ils ont fait des scènes tout au début. Moi, j'étais à la fac à Paris 8. Paris 8, c'est une des premières facs à avoir en fait fait rentrer le hip-hop en fait à l'université. Moi, je travaillais en fait avec Georges Lapassade, qui était un grand anthropologue et sociologue qui avait créé le laboratoire d'ethno-vidéo. Et dans ce laboratoire d'ethno-vidéo, on était quelques-uns comme Juan, qui était avec moi à la fac. Il y avait aussi, j'ai totalement oublié son nom, qui était dans les Ragasoniques aussi. Il y avait des gens comme Solar qui venait à Paris 8, tout ça pour venir suivre en fait des cours de hip-hop qu'on avait mis en place. Au département art, il y avait Jackie Lafortune avec Chuck et puis... quelques autres artistes du graffiti qui donnaient des cours de graffiti. Ce qui était intéressant à cette période-là, c'est que les disciplines soient enseignées par les personnes qui la pratiquaient. Et c'est ça que je trouvais intéressant, en tout cas avec la manière,
d'approcher
le mode d'enseignement de Georges Lapassade, qui était un anthropologue, parce que d'habitude, les anthropologues, quand ils vont... en Afrique, ils vont aller en fait regarder, étudier des tribus, mettre une caméra et filmer, les interviewer. Et là, ce qui était intéressant, c'était que la fac de Paris 8 était à Saint-Denis, dans le 93. Et dans le 93, il y avait énormément de groupes, aussi bien danse, graffiti, rap. C'était vraiment un département où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'artistes. Et du coup, il s'est dit, bah voilà, il faut que cette fac dialogue avec ce qui est en train de se passer en fait dans ce territoire. Et du coup, on a produit pas mal de choses.
Vous aviez même une salle d'entraînement.
Nous, on avait en fait
dans la fac de Saint-Denis. Oui.
Je pense que pour beaucoup de groupes à l'époque, comme je disais, on n'avait pas d'endroit pour répéter. Il y a la place comme ici, ça n'existait pas. Les conservatoires, ils voulaient pas de nous. Donc en fait, on répétait dans la rue. Tu vois, on répétait au Hall, au Trocadéro. On avait des lieux de rencontre où on allait en fait échanger, travailler ensemble, apprendre ensemble aussi. Moi, c'est ce que j'ai vraiment, c'est ce qui m'a toujours fasciné dans le hip-hop, c'est-à-dire que dans les différents disciplines, en fait, on s'est toujours en fait, on a appris mutuellement ensemble. Et du coup, on a grandi aussi ensemble, que ça soit dans le graffiti, que ça soit dans la danse ou dans le break. Avec le son de Paco Rabanne, c'était vraiment un des espaces où on venait, on apprenait ensemble, on regardait les autres, on les regardait répéter. Oh tiens, tu m'apprends ce pas-là, etc. Tu te mets devant la glace, tu répètes une fois, cinq fois, dix fois, jusqu'à ce que tu l'apprennes, que tu le maîtrises, etc., etc. Et c'est vraiment c'était une manière de transmettre des savoirs que je trouvais assez avant-gardiste par rapport à l'époque et même par rapport aujourd'hui.
Alors, Paco Rabanne, c'est le célèbre styliste qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et en fait, il a eu la bonne idée, Paco Rabanne, dans les années 84-85, d'ouvrir une salle pour les b-boys et les b-girls. Alors, au départ, c'était les PCB, donc les Paris City Breakers qui sont...
Il y avait de la danse africaine.
Et il y avait aussi de la danse africaine.
Il y avait de la danse africaine. C'était en fait... En plus, le centre Paco Rabanne, c'était à côté du Bataclan. Et en fait, les musiques en fait, qu'on écoutait au Bataclan, comme disait Karima, la musique africaine, du reggae, la funk, etc., jazz rock, et ben, en fait, dans le centre Paco Rabanne, on retrouvait en fait tout ça. On retrouvait en fait des chorégraphes de danse africaine, des jazz rockers qui venaient répéter, etc., etc. C'était vraiment un espace culturel et en plus des gens qui venaient de milieux différents, de classes sociales différentes, qui se retrouvaient dans cet espace. C'était gratuit. Et en fait, on avait un espace où on pouvait répéter au chaud, parce que répéter en hiver de la danse ou du double dutch sous la pluie ou quand il neige, il faut s'accrocher, quoi.
Comment vous avez été accueillis, vous, ce groupe de filles sexy, féminines, qui dansaient comme ça? Je crois qu'il y a eu des accueils pas tout à fait chaleureux à chaque fois.
Comme tu le disais, hein, c'est-à-dire que le physique chez la femme, c'est une des premières choses qu'on regarde et qu'on attaque aussi, vraiment. C'est-à-dire qu'un mec qui peut être grand, gros, tout ce qu'il veut, on ne va jamais l'attaquer par rapport à son physique. Mais c'est vrai que nous, on a souvent été attaqués par notre physique, parce qu'on disait qu'on était sexy, que le fait de, même des fois, de rapper en talons, comme des fois on le faisait juste pour faire chier en fait les mecs, et ben en fait ils nous traitaient de putes, de salopes. Moi, je me rappelle des certaines premières parties où effectivement les mecs nous traitaient de tous les noms, mais après on en arrivait aux mains, on se laissait pas faire. Dans le groupe, il y avait quand même des têtes dures et qui se tapaient avec les mecs. Il y avait Mirella qui était avec nous. Tous les mecs, ils avaient peur de Mirella quand elle arrivait. C'était une grande baraquée, elle mettait des balayettes.
Ah, mais il fallait se battre, quoi. Ah ouais.
Oui, oui.
Tu tournais le regard carrément.
Oui, oui. Donc, on ne s'est jamais laissé faire. On a toujours essayé de rendre coup pour coup. Mais c'est vrai aussi, on a eu de la chance parce qu'on avait des grands frères. C'était les Buffalo, qui nous ont vraiment aidés, qui nous ont même soutenus. Je me rappelle quand on a eu envie de commencer à prendre des cours de chant, et on n'avait pas l'argent pour payer la prof de chant, et c'est Grand Jack, j'ai été le voir, et pendant un an, il nous a payé des cours de chant au Ladies Night. Et c'était une époque où il y avait beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide, et moi je dis quand même que pour moi en tout cas, le hip-hop, même si au départ, moi je l'ai toujours, ça a toujours été pour moi quelque chose de politique, parce que ça a sauvé beaucoup de jeunes issus de l'immigration, de la drogue, de pas faire des conneries, etc., etc. Ça a vraiment, ça a fait en fait ce que les politiques auraient dû faire pour cette jeunesse, et ben le hip-hop l'a fait en fait pour eux.
Lady Alésia, c'était beaucoup plus fraternel, toi, dans le Nord. Oui, vous pouvez applaudir à tout moment. Alors là, allez-y. Hein. Elles ont dit tellement de choses poignantes, toutes. C'était plus fraternel, toi, dans le Nord, ton rapport avec les hommes.
On parlait de physique. Je pense que dans la danse, justement, c'est ce qu'on met en avant, son corps. Et dans le graffiti, c'est pas du tout ça. C'est vraiment plus le
dessin.
On fait quelque chose et on se barre, en fait. On se cache. Enfin, on ne voit pas le faire. Donc, ce qui va compter, ça va être le nombre de tags que tu fais, les lieux, accessibles facilement ou pas, le nombre dans la ville et le nombre de villes dans laquelle tu as posé, en fait. Et oui, c'est beau. Enfin, je trouvais, on en avait parlé, et je te disais que pour rejoindre aussi ce qui a été dit, c'est qu'on doit faire nos armes, en fait. Mais comme les mecs font aussi leurs armes quand ils apprennent à taguer. C'est-à-dire qu'au départ, à 13 ans, je taguais sur du papier, voilà, jusqu'à ce que je puisse avoir une fluidité de mouvement qui me permette ensuite, devant le mur, de ne pas me poser la question et d'aller vite. Mais c'était en amont, un trait travaillé. Et j'ai eu toujours des bons accueils avec les mecs. Il me fallait juste que je, en sortant du collège, donc au collège je ne connaissais personne qui taguait, c'est à partir du lycée où là j'ai pu me confronter à des gars de ma classe qui eux également taguaient, donc là on a commencé à avoir des interlocuteurs face à moi qui étaient autant que moi passionnés par le tag, par le graphe. Le rap est venu en même temps. C'était vraiment, on parle de magie. Moi, j'aime bien employer ce terme-là. C'était magique pour nous. C'est un événement. On le sent dans notre corps, dans notre mental. On y pense sans cesse. On kiffe. On aime bien. On veut le faire. Enfin, c'est un peu tout mélangé, mais et donc une fois qu'on connaît une ou deux personnes du milieu. Donc j'étais extrêmement timide à mes débuts, et bien comme je connaissais déjà au moins un ou deux gars avec qui on discutait, ça devient nos frères, en fait, nos potes, c'est les frères que j'ai pas, enfin voilà, c'est comme des frères, c'est la famille. Au bout d'un moment, c'est le hip-hop qui nous a réunis, et en même temps il a bien fait. Et donc je connais une ou deux personnes, donc des mecs, et lors de sessions jam, alors des jams c'est des sessions plus ou moins organisé, souvent au printemps. Pareil, on danse, on peut pas peindre. Enfin, quand il neige, on le fait quand même, mais on n'y arrive pas. C'est très compliqué. Et donc, du coup, sur ces jams, c'est des sessions où des graffeurs vont se réunir avec plus ou moins de budget, des fois pas du tout. Des fois, on a 6 bombes chacun, donc et tout le temps plus ou moins les mêmes couleurs. Et on invite tous nos potes graffeurs, taggeurs, vandales, pas vandales, on les invite à venir. Et donc c'est vrai qu'il n'y avait pas le téléphone portable, c'était des rendez-vous à manquer ou à ne pas manquer. On était là ou on n'était pas là. Et lors de ces sessions jam, forcément il y a beaucoup plus de monde. Et le fait de connaître déjà une ou deux personnes qui connaissaient ces autres mecs, j'étais donc présentée, j'ai envie de dire. J'avais moi ce besoin d'être présentée aux taggeurs, aux graffeurs, parce que trop timide, je ne serais jamais allée vers eux. Et j'avais besoin qu'on me propose, qu'on m'invite, donc d'où le côté chaleureux, qu'on m'invite à peindre. Donc des fois je venais juste pour assister, voir les potes, voir ce qu'ils faisaient, passer une bonne ambiance. Donc, souvent c'est au printemps, avril, mai, juin, les barbecues, voilà.
Ça c'est des terrains plus ou moins autorisés, ça.
Oui,
hein.
C'est plus ouais. En fait ils sont pas autorisés, mais comme ils ne dérangent personne et c'est souvent en face d'un fleuve ou d'une voie ferrée, donc c'est des lieux où c'est pas embêtant. J'ai envie de dire le visuel n'est pas embêtant, ça ne dérange personne. Et voilà. Donc je commence à rencontrer plus de garçons qui peignent, enfin qui graffent, qui taguent. Et là, même si je viens juste pour voir les potes, on commence à me dire bah vas-y, prends des sprays, fais un truc. Et ça se passe comme ça. Et pour les petites anecdotes, c'est vrai qu'au départ, je tenais à tout faire toute seule pour justement me dire je suis forte, j'ai pas besoin des mecs pour faire ce que je fais, qu'ils soient là ou pas. Et en fait, dans la région du Nord, on est assez chaleureux au niveau de l'accueil et au niveau du graffiti. Et sur tous les terrains, tout le monde aide tout le monde à porter des bombes, à porter des échelles. On s'entraide, en fait. Qu'on soit, je mettais un point d'honneur à dire non, parce que je voulais gérer pour qu'on n'ait rien à me reprocher. Mais en fait, on me dit, bah, laisse tomber, allez-y, tout le monde le fait, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça... touchant, et en même temps, c'est comme ça que ça se passe.
T'as trouvé une famille avec le hip-hop, t'as trouvé une famille avec le graffiti. C'est la même chose avec nous toutes, je pense, mais surtout Karima, qui a cette marque de frère de sol. Ils sont carrément, tu parlais de frère. Je pense que toi, dans la danse, avec Actuelle Force, avec les garçons qui composent encore ce groupe, c'est des frères. C'est des frères de sol.
Ouais, si tu permets, je veux revenir
bien sûr,
déjà
bien sûr.
Sur la passade, parce qu'on a le parcours du même temps, mais pas de la même manière, en fait. Nous, on est à la MJC de Saint-Denis, qui est devenue une salle mythique aussi. Mmh. Et dans la même période, on voyait ce qui se passait à l'université. Il y avait même Mwidi, qui est voisin de chez moi. Et nous, on a refusé, parce qu'on le voyait, on était jeunes aussi, comme une mainmise qu'on refusait totalement.
C'est-à-dire que la fac, les profs,
pour nous,
voilà,
c'était très dérangeant. Quoi. Enfin, fallait vraiment que je le dise, ça.
Il
y a eu un autre chemin aussi, en fait.
Ouais.
On voulait vraiment être indépendant. En plus, c'est pas méchant, mais un blanc, quoi. Déjà, à l'époque, t'allumais la télé, c'était Claude François, Mike Brandt, etc. Et donc là, on voulait vraiment exister par nous-mêmes. Après, on n'a pas un parcours de Parisien, on a un parcours de banlieusard. Mmh. Et je te garantis que c'est vraiment pas la même chose.
Comme
quoi.
C'est pas la même chose, voilà. avec les régions aussi.
Mais la banlieue, c'est... Et jusqu'à présent, on est toujours stigmatisé, mais en fait, on en a dégagé une grande fierté. De baisser la tête à un banlieusard, c'est très compliqué. À Paris, quand je marche dans la rue, je reconnais toujours tout de suite un banlieusard, quoi. Mais bon, petit détail, quoi. On a notre univers, parce qu'on vient aussi de la culture rorti. Faut pas qu'on l'oublie, nous.
Rorti, tu peux définir ça comment ?
C'est ce qui s'appelait les tireurs, c'était les voleurs.
Ah !
Mais on ne l'était pas tous, mais tout ce qui était le Pacifique, j'ai jamais voulu mettre un pied là-bas, parce que cette étiquette, moi, j'étais pas rorti.
Le Pacifique.
Mais c'était mon univers.
D'accord.
Mais mes voisins étaient, enfin, voilà, c'était la culture de banlieue, ça. Donc c'était le col roulé blanc avec la chaîne en or qui brille. Écoutez, je dansais le Mia, mais je dansais le Mia, il est très gentil.
Ouais.
Enfin bref, je voulais revenir aussi par rapport à Frères de Sol. Déjà au Globo, c'était l'air du temps pour les filles, c'était très très sexy, oui. Tout ce qu'on voyait dans les clips, c'était normal en fait d'être comme ça. Les jupes les plus courtes, avec les grandes chaussettes et les baskets montantes. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, c'est là que j'ai dit, j'ai été beaucoup observatrice, cette facilité. C'est qu'à un moment, la féminité, c'est une grande arme, c'est une arme. Et j'ai dit, OK, maintenant, je vais la mettre de côté. Et qu'est-ce qui va rester ? Quelle force qui va me rester en dehors de ça, justement ? Être féminine, je ne veux pas dire que c'est facile, mais ouais, c'est...
À la portée
j'allais
de
au Globo,
toutes, quoi.
Juste, je marchais et ça n'arrivait pas qu'à moi. Mais tout le monde te donnait son numéro de téléphone. Reviens en jean et en t-shirt, ben on te regarde pas. Toi, mais alors tu dis, mais comment faire pour qu'on me regarde ? Mais ça, faut développer un art aussi. Parce qu'encore une fois, moi, je te parle de danse, etc. Mais j'ai d'abord essayé le graphe, parce que avant le graphe, dans les quartiers, les gens faisaient des bandes dessinées. Il y en a qui ont inventé des personnages. Comme, ben, c'était la génération Marvel aussi. Donc tout le monde faisait ça, et je pense dans chaque quartier, en tous les cas, chez moi, il y en avait. Donc eux, quand le hip-hop, tout ce packaging qui a débarqué, le graphe leur a parlé tout de suite. Ben, on a tenté, hein, mais aucun talent perso. Hein. J'ai tenté aussi le rap.
Oui.
Oui, je connaissais très bien Johnny Go aussi. Donc j'ai essayé d'écrire, nul. J'aurais jamais osé prendre la parole en public. C'était pas possible, j'aurais très timide. Je crois qu'on l'a tous été aussi. C'est ça notre sensibilité aussi. Et donc j'ai refusé ça. Et ce qu'il y a, c'est que avec la première génération d'Actuelle Force, qui ont plus ou moins mon âge, ils m'acceptaient comme j'étais, en mini-jupe, chacun, ils avaient toutes leurs copines. C'était notre univers. Mais après, il y a une autre génération qui est arrivée. Des beaucoup plus jeunes qui étaient adolescents. Et en fait, je les dérangeais avec ma tenue. En soi, je pourrais très bien dire, bah, tant pis pour vous. Mais à quel moment ils vont m'accepter? Comment me faire accepter? C'est-à-dire qu'ils ne me parlaient pas de la même manière. Et je me suis dit, je veux qu'ils me parlent comme on se parle nous tous, quoi, en fait. Être à un niveau égalitaire à ce niveau-là. Donc, on se désarme. Donc c'est là que je ne veux pas dire que j'ai refusé ma féminité, je l'ai atténuée, je l'ai mis de côté pour que ne plus rentrer dans un rapport de séduction, parce que c'est très rapide en fait. Maintenant en jean, t-shirt, ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein, tu as vu, j'ai fait un petit effort, change de titre, une voiture à l'entraînement. Mais bon, voilà, c'est que être accepté comme tu es. Ok, je suis une femme d'une manière ou d'une autre, mais je ne dis pas à un homme d'être devenir un débardeur et de montrer ses muscles. Donc quelque part pour moi c'est un peu la même chose. C'est là mon combat. Et que là, Frère de Sol, oui, c'est la lignée d'Actuelle Force, un groupe de breakers, j'ai été la seule fille. Ils ne m'ont jamais fait de cadeau. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais... Je n'étais pas la petite mignonne à qui on apprend quelque chose. Viens, viens, je t'apprends. Non, ils m'ont mis à leur niveau. Ils étaient en développement eux aussi, moi aussi. Quand j'arrivais quelque part, s'il n'y avait pas de place, personne ne se levait. En tant que femme, c'est très, très vexant. Mais après, justement, tu dis, bah, tu vas être égale. Il faut l'accepter, ça aussi. Et est-ce que moi, à un moment, je me levais pour un homme? Je me levais s'il est âgé, s'il est fatigué. En tant que femme, est-ce qu'on est âgée, fatiguée, handicapée? Certainement pas. Donc on lève la tête et on se dit, ok, on va être au même niveau et on va se battre avec les mêmes armes. Ils auront le physique en plus, mais c'est pas grave, on a autre chose. L'homme a le physique et moi je pense que ça m'a vraiment pris la tête tout ça. Ouais. Étant la seule femme sans modèle, je veux dire, mon modèle c'est Mohamed Ali, il faut le faire. Il n'y a rien à voir. Mais pourquoi? C'est d'abord son nom. Parce qu'encore une fois, là où je dis on allumait la télé, c'était en blanc, hein. Ben lui, avec son nom, en tant que pas musulmane seulement, en tant qu'arabe, maghrébine, quand t'entends Mohamed Ali, tu dis, ouais, on existe, et c'est un champion. Donc oui, c'est possible d'être reconnu. On vient d'une génération que les parents baissaient la tête. Et comment nous, on va la lever? Donc c'est tout ça, c'est des étapes, en fait. Donc maintenant, je vais arriver à Frère de Sol, quand même. C'est que j'ai accepté c'était deux garçons et une seule fille, dont moi, et dont un a disparu depuis, c'est Karim Barouche, à qui je rends hommage. Parce que ça a été un paix à son âme, ça a été quelqu'un qui a apporté dans le monde au niveau du break. Et donc, j'ai accepté la langue française qui dit, dès le moment qu'il y a un homme, et même s'il y a 100 femmes, on dit il, c'est comme ça. Et à la limite, pour moi, ça ne me dérange même pas, ça n'empêche pas ce que j'ai à faire. Et donc, j'ai dit Frère de Sol. Voilà, et que la fraternité. Mais la sororité, maintenant, je vais la redéfendre aussi. Parce que oui, il faut aussi le faire. Mon parcours, il a été très égoïste. Hein. Je ne l'ai pas du tout fait pour les femmes, je l'ai fait que pour moi. Servir de modèle, ça n'a jamais été mon intérêt. Apparemment, parfois, on me dit, oui, tu as un modèle. Ok, non, non, tu es ton propre modèle, tu es le tien, je suis le mien. Et que là, on peut avancer. Il y a des codes qu'il faut qu'on arrive à refuser et aller voir, peut-être changer notre regard, nous aussi, en fait. Voilà.
Agnès, rappeuse parmi les hommes, puisque tu as été très entourée par pas mal d'hommes. Tu as fait un groupe mixte, Le Seul d'ailleurs, je crois, avec Tepa, qui a très bien marché. Et vous étiez toujours au même pied d'égal, c'est-à-dire que vous aviez à chaque fois un couplet chacun, les refrains c'était vous deux. Comment ça se passait? Est-ce que tu étais la mascotte, la petite sœur? Comment ils te voyaient? Parce que tu étais toujours la plus jeune à chaque fois.
Oui, c'est ça.
Est-ce que on s'en fichait de savoir que tu étais une fille? Tu étais juste une rappeuse qui avait du talent? C'était une question de personnalité ou c'était une question de, tiens, il y a une rappeuse, on va la mettre dans le groupe?
Je pense que c'est une question de personne, c'est comme ce que Karim a dit, c'est-à-dire tu viens, tu dois prouver, c'est tout. Après, moi, personnellement, voilà, je suis arrivée, j'avais 10 ans de moins que Diabuse, que tout le collectif, donc ouais, j'étais un peu la petite mascotte et j'ai toujours eu une personnalité un peu exubérante, on va dire, à rigoler ou... Donc, mais on m'a pas pris genre, ah c'est une nana, donc c'est la petite mascotte, quoi. C'est, ah c'est la petite du groupe, tu vois. Mais après, voilà, ce que Karima soulevait, c'est très intéressant au niveau vestimentaire, parce que c'est vrai que ça a toujours été un problème dans le mouvement hip-hop. chez les rappeuses aussi. Ouais. Tu vois, tu as les rappeuses. Moi, en tout cas, de ma génération, il n'y avait pas de nana en petite jupe.
Sexy, ouais.
Voilà, sexy, etc. Ou en tout cas, ça ne marchait pas du tout.
Prends le micro, Pascal.
Non, je disais que c'était difficile parce que moi, je vois même la génération même de mon époque. Eh ben, les filles, elles s'habillaient en fait des baguilles, elles s'habillaient comme les mecs pour justement ne pas se faire traiter de salope ou de pute, etc. Non, mais je parle des... Le Globo, c'est un mélange avec les bobos, Radio Nova, de mannequins, etc. Je parle vraiment des acteurs sur scène. Quand tu montes sur scène, la plupart des rappeuses, elles étaient tous habillées. Que tu vois Stéstros, etc. Tu regardes les albums, tu regardes les clips, tu regardes quand elles montaient sur scène. C'est des discussions qu'on avait. Elles étaient habillées comme des mecs.
Ouais, le monde du rap, pour moi, est beaucoup plus dur. La danse, on a un côté un peu plus... C'est la danse qu'en fait, c'est autre chose en fait. Je comprends, oui, jusqu'à aujourd'hui, même en parlant avec des... Excuse-moi. En parlant avec des rappeurs... L'autre fois, Koma, il est avec Koma de la Secret Connection. Il est avec des amis et je le connais très bien, c'est comme un frère. Je le salue et par politesse, vraiment pas pour autre chose, je tends la main aux autres, mais c'était la moindre des choses. Ils ont eu du mal à me tendre la main. Je dis, mais en fait, c'est quoi ? J'ai envie de dire, mais range ta main, je te dis bonjour par politesse en fait. Oui, parce qu'il y a des gens à côté de celui que je connais, mais ça s'arrête là. Je trouve que votre univers est beaucoup plus dur, quoi. Pas
Est-ce
comparable.
Que justement, avec du recul, Agnès, tu trouvais ça dur ? Peut-être que tu ne le vivais pas de façon difficile, mais comment tu le ressentais, comment tu le ressens aujourd'hui avec du recul ?
Moi, je ne le vivais pas mal, ouais. Déjà. Fallait vraiment faire ses preuves au niveau des textes, au niveau des flows, rapper, prendre le micro, rapper.
Plus encore ? Ce que disait Francie tout à l'heure ?
Plus, pas forcément, parce que tu arrivais, déjà, comme il n'y avait aucune nana, tout de suite, on te repérait, on te disait « Ah ouais, elle déchire, t'as vu la meuf, nanana, tu vois, tu sortais du lot ». Plus que 40 000 mecs, ouais. Tu vois, c'est comme à chaque fois, je prends le même exemple, mais tu vois un petit de 8 ans qui rappe et qui déchire, bah tout de suite, tu vas le repérer. Plus que 20 lascars, tu vois, qui ont tous le même style, quoi. Donc, non, je l'ai pas mal vécu. Après, il y aura toujours des anecdotes. Dont une que tu veux absolument que tu racontes.
Ah oui, je veux absolument que tu racontes, parce que je ne l'ai pas vécu et j'aurais tellement aimé être là.
Ouais, non, mais c'était dans le Nord, d'ailleurs.
Ils sont pas si chaleureux dans le Nord.
C'était pas tes potes. Non, c'était dans un quartier, je sais plus, Roubaix ou je sais plus, ou Lille, vers là quoi. Et Saint-Brieuc peut-être, je sais plus.
Oh, Saint-Brieuc, c'est pas le Nord.
Ah pardon. Oh, par là.
Oh, vas-y, c'était dans le Nord. Tu t'enfonces là, Agnès.
Je me rappelle. Moi, je suis un peu nul hein, en géographie. Donc. Donc du coup non bah tout le monde rappe etc nanana et après moi je rappe aussi et il y avait un gars qui disait
dans le public
oui sale pute ou salope toujours les mêmes trucs quoi comme d'habitude voilà et à chaque fois en fait je crois que quand c'était la fin du couplet et tout sale pute sale... je sais pas si mes filles elles sont là boucher les oreilles hein. Ouais bah. et du coup après j'ai fait attends stop et tout au DJ stop tout et tout qui c'est qui crie là et tout nanana et le
c'est
mec il
m'insulte, ouais.
Voilà c'est ça et le mec il était chaud hein. Il fait ouais c'est moi qu'est-ce qu'il y a et tout bon il avait dû boire un petit coup quoi donc après bah je lui dis bah vas-y monte sur scène on va voir qui est la PUTE pardon les filles et après, du coup, il est monté.
Mais tu voulais te battre ? Tu voulais faire
quoi ? Non. Je dis, vas-y, tu rappes, toi, vas-y, fais un petit truc. Vas-y, je vais te laisser ta petite chance, là. Donc, il a fait son petit... ouais, nanana, moi, je suis là, ouais, là, je viens de Roubaix et tout, avec ma copine Alésia.
De Saint-Brieuc.
Voilà, de Saint-Brieuc en même temps et tout. Et après, tac, j'ai rappé, ta-ta-ta-ta. J'ai sorti un texte, bim-bam-boum. Et après, il y a toute la salle qui a fait, ouais. Bah, après, j'ai fait, vas-y, descends. Hein.
Ouais.
Donc je t'ai froissé, c'est comme ça quoi. Donc c'est pas une question de si je suis une nana ou pas quoi. Ouais. Et voilà, mais bon après t'as toujours des petites anecdotes, je pense dans toutes les disciplines, tu vois. Je pense dans le graphe c'est pareil, les mecs ils vont dire ah bah tu dessines des nanas, tu veux pas faire des gros seins, tu vois, c'est des petites allusions comme ça, sûrement.
C'est ton cas,
hein,
Alésia.
C'est, en fait, c'est plus des potes, c'est pas vraiment des gens que, qui vont m'aborder sans que je connaisse. Et ils vont me dire, ah, tu ferais pas une lady hyper sexy Voilà, donc ça vient du mec. Après, il y a toujours la, la fameuse expression, ouais, pas mal pour une meuf. Donc,
voilà,
t'as le truc.
Ouais, ouais, pas mal pour une meuf.
Bah oui, mais donc c'est pas mal, tu peux t'arrêter là à la phrase, tu vois.
C'est... Ça, en rap, ça c'est vrai. En rap ça, tout c'est... le temps, ah ouais, tu rappes bien pour une meuf. Tout le temps, tu rappes bien pour une meuf, tout le temps, tout le temps.
Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Qu'est-ce que tu répondais à ça ?
Bon, je réponds à 16, ouais. Non, je répondais même pas, quoi. Je, si tu calcules pas. Hein. Après, c'est à toi de faire tes preuves en tant qu'artiste et, voilà, et de, d'exceller dans, ton, dans ta discipline. Mmh. Si t'excelles, en fait, tu fermes des bouches et c'est tout. Quel que soit le milieu, hein, que tu sois chef cuisinier, n'importe quoi. À partir du moment où t'excelles dans ton domaine, ils se la pouettent tous, tu vois.
Je...
Tu vois ? Non, mais c'est vrai.
Ouais, ouais. Enfin, si, toi, t'as une histoire incroyable, justement, par rapport à ton parcours de tagueuse vandale. Toujours qu'avec des hommes.
Ouais, ouais.
Et tu... C'est pas que tu ne voulais pas de femmes, mais il y en avait pas, et...
Ouais, ça m'arrangeait, c'est bien aussi. Non, non, mais après,
ça t'arrangeait
je voulais
d'être
juste
la seule femme.
Rebondir par rapport à ce que disaient les filles, mais moi, j'ai eu, par contre... des trucs un peu incroyables avec les mecs. Par exemple, quand j'avais le malheur de faire plus gros qu'eux, ce qui arrivait souvent, et les mecs avaient réussi à faire de moi ce qu'on ne me voyait pas. Hein, moi, donc, moi, je n'étais pas sur la place publique, j'étais cachée la nuit. Et les mecs avaient décidé que, en fin de compte, j'étais une meuf viking qui faisait 2 mètres de haut. Donc, loupé. Hein. Ouais, donc, ça, c'était une première légende, entre guillemets, pour essayer d'expliquer que c'était normal, en réalité, que je fasse mieux qu'eux, parce que je faisais 2 mètres de haut et que j'étais viking, d'accord, ok. Et après, j'en ai eu d'autres. J'ai aussi. Donc, c'était bien évidemment les gars de mon groupe qui peignaient à ma place. Donc, ça, on a tous. Dans le graffiti, c'est souvent comme ça. Non, non, elle. Elle refait les remplissages, etc. Et j'ai eu une autre légende, c'était que je m'occupais du maître chien pendant que mon groupe peignait. Voilà. Donc forcément, il faut savoir aussi que ouais, les mecs, quand on a le malheur aussi de faire un peu plus gros, un peu plus fort, un peu plus dur, ça les emmerde un peu. En gros, ils vont bien trouver quelque chose. Le physique, tout est possible, quoi. Voilà. Et moi, genre, c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de... Bon, après... moi, dans le graffiti, ce que j'appelle le graffiti hardcore, tout était hardcore. Mmh. Hein, j'ai commencé, j'ai fait un magasin qui s'appelait All City. J'étais dedans et en fin de compte, j'étais la première à me battre. Hein. Donc, il y avait des groupes maintenant qui sont tous mes potes. Et, mais avant, je me tapais avec eux. Mais
ouais, t'es arrivé aux mains plusieurs fois, toi.
Moi, en fin de compte, moi, j'ai. Dans toute cette culture hip-hop, j'ai commencé, hein, j'ai fait toute l'Europe entière, je faisais les Battle of the Year aussi, genre on était en Allemagne, on était en Espagne, en Italie, partout, c'était cool. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, il y a des choses qui basculent et que dans les années 2000, on s'est retrouvés avec une surviolence, avec du dépouillage. Et le dépouillage, il existait déjà à l'époque où il y avait les rendez-vous au Troca, où il y avait les rendez-vous même au Bataclan. Tout ça, ça existait aussi. Il n'y a pas que le monde du hip-hop cool, yo. Il y a aussi toute cette partie-là. Il y a aussi les Antifa. Il y a toute cette partie-là de militantisme, de violence. Et moi, effectivement, dans ma discipline... J'étais plutôt du côté de la violence. Et moi, j'étais effectivement la seule femme autour de centaines d'hommes dans un milieu extrêmement violent où la police avait une place de choix et où moi, je sais qu'à All City, il fallait à un moment donné que même carrément le truc que j'ai toujours détesté, mais je l'ai fait, je bossais avec la police pour, en gros, protéger les mecs qui venaient chercher des bombes dans mon magasin. J'ai sauvé la peau à un mec qui s'appelait Comer, qui s'est fait démonter devant mon magasin. Et ça, c'était toutes les semaines. Moi, le rapport que j'ai, moi, avec les hommes, c'est un rapport où, effectivement, je joue des coudes actuellement et encore maintenant. Je suis régisseuse sur des concerts de rap, de punk. Et ouais, je suis désolée de le dire, mais je pète la gueule encore aux connards qui me font chier. Pardon, excusez-moi pour les gros mots. Parce qu'en réalité, j'ai un rapport très masculin, moi, à tout ça, quoi. Effectivement, ça n'a pas été la même ambiance, les mêmes attitudes. Pourtant, par contre, effectivement, c'est ce que je t'expliquais un peu, c'est s'il y a bien une chose maintenant qui fait que je commence à comprendre pourquoi j'ai fait tout ça, je suis quand même contente de me dire que maintenant, en tant que femme, il n'y a pas un seul mec dans le graffiti qui ne me respecte pas. Tout le monde me respecte pour ce que j'ai fait, pour ce que je suis, et justement pour le fait que j'ai toujours mis un point d'honneur à ce que les gens soient respectés et ce qu'on me respecte. Effectivement, moi, ça a plutôt joué des coudes. Je ne vais pas mentir, je n'ai pas fait dans le glamour, très clairement. Voilà.
La punk.
On applaudit. Mais justement, la forme de respect, tout le monde ici connaît la culture hip-hop. En tout cas, si on connaît la culture hip-hop, tout le monde vous respecte à chaque place que vous êtes. Karima, en breaking, vu que tu es toujours dans la transmission, Pascal Obolo, quand j'ai dit que tu allais venir, tout le monde était là, mais Pascal va venir, mais Ladies Night, mais incroyable. Bon, évidemment, Karima, évidemment, Princesse Agnès. Tous les hommes, en fait, vous respectent. Tous les hommes de cette culture, DJ Pomme, tous les DJ avec qui tu as travaillé, Dynasty, il s'est agenouillé devant toi, Dynasty. Est-ce que tu peux raconter ça? Alors, Dynasty, je veux bien que tu prennes ton micro. Je veux bien que tu prennes ton micro, ma biche. Prends ton micro, s'il te plaît.
Désolée. C'est vrai que quand ça s'est fait, j'ai regardé derrière moi, je me suis dit, mais c'est qui, en fait? Et en fait, ouais, c'est le respect, oui, j'ai toujours eu, mis à part quelques énergumènes. Mais je peux citer DJ Prodige aussi, qui a aussi une grande place dans mon parcours. Mais tous ceux que j'ai rencontrés, que ce soit Tal, Noise, même Jamel Debbouze, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, plein de gens, DJ Abdel, oui, jamais eu de difficultés. Il y a aussi la sororité, il y a aussi la fraternité d'hommes envers une femme.
Dans la culture hip-hop.
Dans la culture hip-hop. Ah, oui. Sans qu'il y ait besoin de monnayer des faveurs, entre guillemets, hein, ça existe, sans qu'il y ait d'enjeux...
De séduction,
de séduction, tout à l'heure, ouais. Tout à fait, parce que je pense qu'on a assez de recul avec ce mouvement pour parler effectivement de ce type de rapport. Les enjeux, ce qui est normal, on est des êtres vivants, des êtres humains, il y a des émotions qui circulent. Et malgré effectivement qu'il n'y ait pas d'enjeu de séduction, moi j'ai rencontré la fraternité aussi. Et je pense qu'il faut retenir, il faut retenir ça avant tout, même si effectivement il y a eu des rapports de domination et des rapports de violence dans les groupes, sur les scènes. Moi, quand je montais sur scène, Fancy a décrit ces rapports de violence. Il y a eu des scènes coupées parce que les flics arrivaient, parce que et quand on est DJ, qu'il y a une bagarre, quand on joue, qu'il y a une bagarre sur les platines, c'est chaud patate quand même. Donc, moi j'ai connu ça, j'ai connu me réfugier aux toilettes, notamment avec Lady Lesty, une soirée où elle était là. Il y avait cette violence, mais les années 90-2000, c'était ça. Le hip-hop, c'est un microcosme, de toute façon. Donc, on était dans une société aussi où il y avait de la violence, où il y avait des rapports de domination. Et jouer des coudes, comme tu dis, Fancy, c'est sortir de ce rapport-là pour être dans une démarche de création. Et c'est là qu'on est gagnant, à mon avis, en tant que danseuse, en tant que rappeuse. C'est sortir de ce truc qui va nous restreindre à des logiques d'affrontement qui n'ont pas lieu d'être.
Ouais, ça nous a sûrement transcendé quelque part, ça nous a porté plus haut.
Oui, ça forcément. Porte plus haut. Et puis on savait très bien qu'on allait trouver ça, qu'on allait trouver quelque chose de l'ordre du masculin aussi dans ces scènes, dans ces créations, dans ces rapports, des rapports des logiques d'affrontement, etc. Quand tu fais un battle de danse, c'est des logiques d'affrontement, sauf que c'est dansé. Quand tu fais de la capoeira, c'est des logiques d'affrontement, sauf que c'est sublimé. Quoi, et ce rapport de sublimation, voilà, ce rapport artistique que tu cherches et tout, moi je le cherchais. Hein. Je me plaignais qu'un tel il se fout de ma gueule ou il se moque de moi, il me laisse pas la place. C'est vrai, ça me frustrait, ça me rendait folle de rage. Mais je savais que j'allais trouver aussi ce côté, si tu veux, très fort, vraiment très fort, voire type adrénaline avant de monter sur scène ou effectivement. T'as droit à l'erreur, c'est vrai, mais pas tant que ça, en fait. Mmh. Tu peux pas te louper sur scène.
Mmh. Bien sûr. Je parlais de Dynasty, c'est le père des DJ en France. Sans lui, il n'y aurait pas de hip-hop en France. Donc, c'est pour ceux qui ont regardé la série Le Monde de Demain, vous voyez de qui je parle. Bon, voilà, Dynasty. Pardon, Agnès.
Non, je voulais dire, en fait, ce qu'elle dit, ça, tu peux le retranscrire dans toute la société, quoi. Dans n'importe quel métier, n'importe où, quoi. C'est pas forcément lié au hip-hop, je pense. Et au contraire, dans le hip-hop, je trouve qu'il y a beaucoup plus de respect. Enfin, les hommes respectent beaucoup plus les femmes que dans d'autres secteurs ou dans d'autres milieux.
Et comment tu l'expliques, ça, Karema ? Comment tu l'expliques ? Ou Alésia, ou Pascal ?
Moi, je connaissais un groupe. J'ai découvert lors d'un festival graffiti à Dakar, Festigraph, tu connais peut-être Docta.
À Dakar.
Et en fait, il y avait eu, donc elle était également DJ, donc graffeuse DJ Agana. Et son groupe, pour répondre à la question, je trouve que ça illustre bien, c'est Few and Far Women, qui veut dire donc peu nombreuses et loin les unes des autres. Et je pense que justement, quand un mec dans le mouvement tombe sur... donc y en a, on n'est pas nombreuses, il y en a bien sûr, mais beaucoup moins. Et donc du coup, il va avoir ce rapport-là à on est peu nombreuses, quoi. On n'est pas toutes réunies là tout le temps.
Comme aujourd'hui, voilà. Mais bien sûr. Karima, tu penses que vraiment, c'est la culture hip-hop ? Dans la culture hip-hop, en tout cas, il y avait plus de solidarité qu'ailleurs, finalement ?
Oui, moi encore, je vais toujours ramener à la banlieue parce que c'est quand même mon univers. Mais il ne faut pas oublier que toutes les banlieues se retrouvaient au centre de Paris. C'est la guerre, en fait, normalement. Ça veut dire que même, enfin, je vais rester aussi dans mon univers de la danse. C'est-à-dire qu'en danse, juste tu fais ça, ben, ça démarre. Donc tu apprends à ne pas faire ça, à ne pas insulter. Aujourd'hui, rien que le groupe NTM, c'est-à-dire nique ta mère, c'est ça, en fait. C'était impossible à dire. Juste ta mère. C'était mort, en fait. C'était fini. Ça partait en bagarre. Donc, t'imagines, tu m'éniques. C'était impossible. Donc, ce nom-là, c'est vraiment par provocation. Mais c'était impossible de dire ça. À la limite, je suis désolée, hein, mais on parlait comme ça. C'était nique sa mère. Mais tu regardais. Je pouvais pas dire. Voilà, on ne se disait pas ça. Donc, quelque part, on s'est imposé des codes. Pas le choix, ou sinon, on est tous morts. Mais voilà, moi aussi, je pense que le hip-hop a ramené de la sagesse, le respect. Pour moi, c'est le mot fondamental. On va toujours dire peace, unity, love and have fun. Heureusement qu'il y a eu ça quelque part. Le hip-hop a débarqué comme un packaging, sans mode d'emploi. Hein. Donc, il fallait essayer de comprendre pourquoi. Donc, ça aussi, c'est un autre combat. L'univers aussi était différent. Quand on s'entraîne à Châtelet, il ne faut pas oublier que juste avant, c'était un endroit de skin. Moi, j'étais coiffeuse. À partir de 21h, je ne pouvais plus prendre le métro. C'était la mort, en fait. C'était
chassé par les skins, oui.
Ouais. Ah oui, il y avait les skinheads. Hein. Ouais,
aujourd'hui, on s'entraîne à Châtelet, normal, comme si c'était un lieu acquis. Mais ça a été un combat pour que ça soit acquis, justement. Et ça aussi, ça a forcé le respect. C'est ça qu'il ne faut pas qu'on oublie, cette forme d'histoire aussi.
Moi, si je peux me permettre...
Jésus, applaudissez, ouais, oulala.
Je voudrais juste dire un truc. Je pense que maintenant... J'ai donc maintenant, je suis encore invitée à des jams, à des battles, à plein de trucs. J'aurais tendance à dire maintenant que je trouve ça vachement, vachement positif et bien plus cool que ça n'a l'été à notre époque. Genre bravo, hein, vous êtes vachement peace. Mais très clairement, je pense quand même que effectivement. Tout le hip-hop tel qu'il est maintenant, il est parce que sûrement aussi les gens qui encadrent sont des gens de notre âge qui ont, tu vois, qui ont essayé de donner de tout
transmettre,
ce qui de transmettre avec tout ce que nous on a vécu quelque chose de bien plus positif. Et moi, ce que j'en vois là maintenant, c'est genre je prends, j'ai deux gamins et donc un qui est à fond dedans avec son papa qui est rappeur et très clairement. Je prends un super plaisir à voir maintenant toutes ces, le hip-hop, hein, tous les milieux du hip-hop, et justement quand on fait des jams, et de voir quand même que c'est super bon enfant, super cool. Il faut vraiment rester dans cette énergie-là, qui est une très très bonne énergie, qui fait effectivement où les femmes commencent à avoir une très bonne place, bien plus qu'on l'a été. Et bravo les meufs, il y en a de plus en plus. Il faut continuer. Et mais très clairement, je suis assez confiante sur l'avenir du hip-hop et tout ce que ça va apporter et ce que ça apportera encore à notre société et aussi aux femmes, aux jeunes filles, aux gamines qui vont prendre le relais plus tard, parce que je pense que très clairement, on est de plus en plus dans un hip-hop bienveillant, où la place de l'un et de l'autre et le respect des uns et des autres commence réellement à être... C'est le hip-hop, ça devient une discipline bienveillante, ce qui n'était pas bon. Alors après, le rap... Hein, c'est encore autre chose. C'est délicat parce que de toute façon, il y a toujours la culture du moi-je, mais dans le breakdance, carrément, ça a toujours été quand même très bienveillant. Mais ça l'est de plus en plus. Et dans le graffiti, effectivement, on commence à avoir de plus en plus de nanas et je suis très, très contente. Hein, parce que moi, effectivement, mais nous, on n'a pas vraiment eu le choix en réalité. On était toutes seules. Enfin, toutes seules. Toutes seules. On s'est
dans
formées
son coin,
toutes seules.
Ouais, bien
on
sûr.
Était, voilà. Mais on a joué de ça aussi, ça nous a plu. On était aussi chouchoutés, de la même manière qu'on a été maltraités et malmenés,
on a été aussi chouchoutés.
Oui, c'est-à-dire que nous, on avait d'un côté tous ceux qui faisaient attention à nous,
quoi,
qui étaient bienveillants, et tous ceux qui étaient juste des cons. Mais des cons, il y en a partout encore, hein, soyez rassurés. Ils sont toujours là. Voilà. Donc, en gros, moi, je voulais juste mettre un petit point là-dessus parce qu'effectivement, je parlais de violence, mais je parle aussi là de ce qui se passe actuellement.
De bienveillance,
c'est plutôt bien, très clairement.
Karima, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à breakdance.
Je suis désolée. Hein. Moi, par rapport à mon vécu, je trouve qu'on n'a jamais été moins hip-hop qu'aujourd'hui.
Ouais.
Parce que justement,
aussi,
là, on est dans des disciplines, on n'est plus dans le hip-hop. C'est-à-dire que
chacun
le graphe
fait son
tout seul, la danse est toute... Enfin, tu vois, tout est séparé maintenant. Donc, est-ce qu'on peut encore dire hip-hop, en fait? Aujourd'hui, j'ai un peu mal au cœur pour les plus jeunes. Parce que ce qu'on a vécu, ils ne pourront jamais le vivre. Et c'est de la faute de personne, c'est l'ère du temps. On a vécu une ère socialiste.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est complètement capitaliste. C'est le moi-je. C'est l'ère du temps, c'est de la faute de... Ni du hip-hop, ni c'est la société qui est comme ça.
Je pense qu'il faut qu'ils aillent chercher des gems. Hein. Les gems, ils sont encore comme ça. Il y en a beaucoup encore.
Nous sommes le reflet de. Nous sommes une micro-société, le reflet de la société. Par contre, toi, quand j'ai entendu parler de différence de salaire, j'ai fait une conférence, plusieurs avec Rokhaya Diallo à La Réunion, et j'entendais parler de tout ça, différence de salaire, la violence faite aux femmes. Ben, ça, c'est vrai que c'est la société. Mais dans les hip-hop que je connais, pas du tout. On a toujours été égalitaire, c'était notre combat. Et je me dis, à un moment, c'est peut-être la société, on doit inverser le regard, c'est peut-être eux qui doivent nous regarder et prendre exemple sur ce modèle-là, en fait. Mais rassembler tout ça, les valeurs, etc., c'est les années 80, vraiment.
Ouais,
et un peu 90.
Ouais.
À partir de 2000, alors là, encore pire, 2020, chacun pour sa gueule, quoi.
Ouais. Pascal, t'es d'accord? Toi, t'es pionnière de chez pionnière, t'as vu l'évolution du hip-hop?
Ouais, non, moi, je voulais revenir sur ça, et puis... C'est très difficile de comparer les époques, c'est-à-dire que chaque époque, en fait, a ses avantages et ses inconvénients. Et on fait avec. Et moi, je n'ai jamais eu peur de mon époque d'aller dans des concerts de rap, de faire des battles de danse, etc. etc. Et j'ai jamais eu cette peur. Déjà, il n'y avait pas beaucoup d'offres en termes de culture. Donc les peu d'événements qu'il y avait, ben on se battait tous pour y être, pour en tout cas pour
faire
partager notre discipline. Et pour moi c'est une énergie avant tout, c'est une énergie et il faut revenir aux fondamentaux, tu vois, de cette culture. Effectivement, quand Bambata a dit il y a des valeurs. Et pour moi, ce que le hip-hop des années 80 incarne, représente, c'est ces valeurs-là, c'est ces valeurs de sororité, de fraternité, de solidarité, de s'auto-apprendre mutuellement, etc. Et tout. Même, je vois par exemple, l'école de danse de Tony Mascotte. Je veux dire, son école de danse, on n'apprend pas juste à danser, on apprend aussi l'histoire, la manière dont les profs en fait transmettent, ils transmettent des valeurs aux gamins, aux gamines qui viennent danser, apprendre à danser dans ces écoles. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve moins parce qu'on est dans un rap business, on est dans le business à fond. Tu vois les battles qui sont dans des méga salles, etc., etc. C'est-à-dire que je regrette pas que nous on était un peu les sacrifiés. Je dis toujours les pionniers sont les sacrifiés quelque part, mais en même temps on a tellement vécu. Moi j'ai tellement vécu des choses qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui que je quelque part pour moi c'est avant tout ce qui reste pour moi du hip-hop, c'est ces valeurs. Et quand je vois à chaque fois des anciens, ça fait 10 ans que je ne les ai pas vus, 20 ans que je ne les ai pas vus, que je les croise quelque part, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Mmh. C'est parce qu'il y a eu ces valeurs-là.
Mmh. Bravo. Je vais essayer de vous donner la parole à un moment donné. Je voulais juste parler avec Agnès de la fin du rap. En 2009, tu décides d'arrêter. Il n'y a pas dans la culture hip-hop ou dans le rap français une rappeuse qui a évolué dans le temps. Elles ont toutes arrêté à un moment donné. On peut avoir des IAM qui ont commencé très jeunes et qui sortent encore des albums, des Oxmo Puccino, des Kondo, mais pas de rappeuse. Pourquoi ?
Bah déjà, il n'y a pas eu beaucoup de succès chez les nanas, mis à part Diams qui a cartonné. Donc, mis à part elle, tu vois, c'était plutôt under, quoi. Comment ? Qui a arrêté,
qui a arrêté. Oui.
Après.
En ce qui te concerne.
En ce qui me concerne. Et je pense que en ce qui concerne beaucoup de nanas. Moi, en tout cas, voilà, quand j'ai eu ma fille Asia qui est dans la salle, c'est de sa faute si j'allais
là. Tu veux venir Asia.
Mais quand j'ai eu mon enfant, c'est vrai que t'es obligé de faire un break. Enfin, t'es obligé. En tant que mère, oui, c'est vrai que tu passes du temps avec les enfants. Je sais pas si vous avez des enfants, mais.
Voilà, je confirme.
Voilà, tu passes du temps avec les enfants, etc. Et après, bon, tu sais, c'est. Pour le rap, en tout cas, c'est. Ce que je pense, hein, c'est une musique de jeunes, quand même. Tu vois. Donc, 40, 50 ans, je ne sais pas si tu peux encore vraiment rapper, on va dire. En tout cas, tu es un peu déconnecté de ce qui se passe de la base. Tu vois. Bon, après, tu racontes d'autres choses. Hein, Oxmo, je pense qu'il raconte d'autres choses. Et ce qui est, enfin les hommes, eux, ils ont pas ce problème-là. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai connu plein de rappeurs qui ont eu des enfants, des bébés et tout. Ils étaient en studio en train d'enregistrer leur album ou de faire leur
tournée. Toute la nuit, quoi.
Voilà, c'est ça. Et parce que c'est les nanas qui s'occupaient des enfants, donc eux, ils continuent comme si de rien n'était, tu vois. Stée, elle a eu son enfant, elle a arrêté pendant quelques années. Moi, pareil. Voilà, c'était Strauss et ainsi de suite, quoi.
Les nanas, mais t'as arrêté, t'as voulu reprendre ?
Non.
Non, jamais.
Non.
Et ça te
non,
manque
non,
pas
je pense qu'au bout d'un moment, tu fais le tour.
Ouais.
Tu vois. Mais après, je fais d'autres choses. Voilà, je fais un peu de
la création,
d'autres formes artistiques. Non, mais c'est vrai, je dessine, je fais des choses, d'autres choses, quoi. Et voilà, j'écris pour voilà des séries, des fictions ou du documentaire. D'ailleurs, il y avait un documentaire sur le streetwear.
Ouais.
Voilà. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'activistes, on va dire, dans le milieu du hip-hop, on est toutes imprégnées de ces valeurs-là. Et donc, on va le retranscrire dans nos boulots, dans notre vie de famille, dans ce qu'on va inculquer à nos enfants, dans l'art en général, enfin, dans notre culture, dans ce qu'on va aller regarder au cinéma avec les enfants ou avec des amis. Donc, il y aura toujours ce truc-là qu'on aura en nous. Pour moi, c'est une richesse, tu vois. Comme elle disait... Tu vois, 10 ans, t'as pas vu quelqu'un pendant 10 ans, tu le vois 10 ans plus tard, c'est comme si tu l'avais pas quitté. Au niveau du territoire, tu vois, j'avais fait des concerts en Suisse, au Cameroun, un peu partout. Tu revois les mecs 10 ans, 15 ans plus tard, c'est
Madagascar
et tout, voilà Madagascar, n'est-ce pas ? Et après, tu revois les personnes, c'est devenu des amis, quoi. Et ce qui nous lie tous, c'est le hip-hop. C'est fou quand même. À travers le monde et tout, à travers tout, quelle que soit la génération, tu partages cette passion.
Vous continuez, vous, à faire... Alors, je sais que Karima, oui, bien sûr, le breaking, c'est... Il y a la transmission à Mayotte et là où tu peux, d'ailleurs. Toi, Fancy, c'est plus la musique en ce moment ?
Ouais, enfin, si je continuais, je le dirais pas, hein, d'accord.
Ouais, il y a une autre histoire qu'on vous racontera, un autre épisode de l'histoire de Fancy, qui correspond donc à cette rupture que tu as eue dans les années 2000 avec l'affaire de Paris, si vous voulez aller regarder. L'affaire de Paris, c'est attraper le maximum de taggers sur Paris, et elle en a fait partie. Donc ça, ça fera peut-être... J'espère, non, l'objet.
On m'a pas attrapé.
Ah, on t'a pas attrapé.
On m'a dénoncé gentiment.
Ah, voilà, t'as dénoncé.
Encore un
gentiment.
Homme en plus.
56. 56 dépositions contre moi. Genre, les hommes m'ont beaucoup aimé. Ah ouais, voilà.
Alors, moi, pour conclure, je voudrais essayer de donner quelques noms de femmes dans la culture hip-hop qui ne sont pas avec nous autour de la table, qui sont plus disponibles, pas disponibles. Et que j'aimerais, si vous avez quelques noms en tête, donner ces noms-là, même si on ne dit pas à qui elles sont particulièrement. Moi, j'ai fait ma petite liste perso, donc je vous la donne. Je voudrais dédicacer Sista Shefa, qui a créé le fanzine Ours, Shan Khan, Valérie Atlan, Marion Meilin, Anjuna, Marie-Laurette, Massita, Nadja Arek, Kerama Meri, Alexandra Monori, Virginie Conné, Pénélope, Elga, et à vous, bien sûr, d'être venu livrer un bout de votre vie devant ces vies qui nous ont permis d'être là encore. Merci à vous.
Merci.
Si vous avez des noms, Karima.
Queen Candy. Le premier fanzine, c'est elle, quoi, le Zulu Later.
La Zulu Later, on a un membre de la Zulu.
Des photocopies de chez elle. Quoi, voilà.
Exactement.
Ça a été énorme pour nous, ça.
Agnès, Sté, je sais que tu étais proche de Sté.
Ouais, Sté, Diams aussi.
Diams, bien sûr.
Après, il y avait qui
Bilove aussi.
Ouais, mais ça, c'est la génération
ouais,
avant.
C'est pas celle
qu'elle a connue. Je les ai pas connues, désolée.
Lady Lesty, tu l'as connue?
Lady Lesty, et c'était la génération aussi avant.
Ouais.
Avant. Mais voilà, il y avait pas mal de nanas, mais je les ai pas en tête, désolée. Dédicace à toutes les meufs, même inconnues.
Ah ouais, inconnues hein, d'ailleurs,
moi,
à toutes les meufs.
J'ai aussi des petites dédicaces à faire.
Ah vas-y. Karima?
C'est bon, t'as fini, ouais. Tu voulais dire
Déjà, Bintou.
Bintou Dembélé,
Nassira,
tout à fait.
Et là, je vois aussi, il y a Sabine que j'ai connue dans les années 90.
Oui, bien sûr.
Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vue aussi. Là. C'est,
voilà. Sabine.
Canty, il y en a tellement en fait.
Il y en a tellement, évidemment, bien sûr.
Bah, en fait, je vais rejoindre Karima dans sa dédicace. Donc Sabine, que je dédicace vraiment fortement. Lady B-Side, tout le groupe, c'est-à-dire tout Canty, tout ce groupe de jeunes femmes qui ont fait un groupe avec Bintou, et Feu Lady V, voilà, à qui on pense très chaudement. Et comment dire, en fait, les Lady B-Side, c'était un agrégat de talents, c'est-à-dire des danseuses 2.0 mises ensemble. Donc, c'est assez extraordinaire comme idée, comme concept et comme déploiement de talents. Toutes les femmes que tu as citées, voilà.
Il y a aussi, Max Laure qui a beaucoup
Max Laure, qui aurait pu venir, mais qui était plus disponible.
Qui a beaucoup, fait évoluer la danse. Elle a beaucoup transmis, elle a créé tellement de groupes, elle a fait tellement de chorégraphies à des rappeurs, des clips. Et elle est incroyable.
Il y a Yasmina aussi.
Yasmina.
Qui est ta génération, qui était journaliste à Radical.
Ouais. On a mis des ouvrages, merci Agnès. On a mis des ouvrages que vous pouvez venir consulter. Ils sont à nous, hein. Merci de ne pas les prendre. Mais si vous voulez les regarder, des ouvrages de graffiti, l'interview de DJ Pomme que j'avais faite en 2000 dans le magazine Radical. Agnès, il y a tous les clips qui sont disponibles. Il y a. Qu'est-ce qu'on pourrait. On pourrait vous voir quand et où vous.
Moi, c'est vrai que je t'ai donné aucune image. J'ai pas eu l'occasion.
Parce que tu reviens de l'île de la Réunion.
Mais je vais quand même faire kiffer les hanches de Jean-Pierre Thorne.
Faire kiffer les hanches qu'on peut regarder sur Internet.
Voilà.
Bigger,
j'en profite, si je peux me permettre. Avec Déborah, j'ai un projet de série. Voilà, pour l'instant, c'est en projet.
Ah,
mais voilà, ça avance.
Une série sur ta vie.
Inspiré. Donc ça reste que inspiré, comme ça il y a moins de critiques.
On adore.
Voilà. Bon, il manquera toujours quelque chose, donc restons dans l'inspiration.
Pascal, tu voulais dire des noms peut-être, les membres de Ladies Night, s'il te plaît.
Toutes les Ladies Night, Claudine qui continue à faire du double dodge, qui continue à transmettre, qui continue à travailler à la Fédération Française de Double Dodge, Dalande, Naomi, Alexandra. J'en oublie
Natacha.
Natacha grave et j'oublie en fait ça m'énerve qui était à la mémoire
bon,
me fait
on
défaut.
Passe à Alésia, tu reprends Ruth, bien
Ruth,
sûr
Ruth, Chantal, Natacha et ça m'énerve parce qu'il faut que je retrouve son nom.
Dans les ah oui, j'enchaîne avec Martha Cooper qui a quand même été la référence des prises de vue des graffitis.
Lady Pink.
Et j'allais le dire, mais voilà, je ne l'ai jamais rencontrée, bien sûr, mais c'était la première femme que j'ai vue dans un livre avec sa veste en train de peindre. Voilà, donc il y a Lady Pink, j'allais le dire. Après, il y a aussi Sté Strauss que j'embrasse fort. Et j'ai envie de dire Marco, c'est un mec, mais c'est Marco qui m'a fait rencontrer Kera, qui m'a fait rencontrer Pomme, qui m'a fait rencontrer Sté. Donc, je veux dire, il y a aussi un lien dont je voulais lui dire merci également.
Et je pense, voilà. Je voudrais peut-être quand même aussi faire une grosse dédicace à Chlore du 123 Clan, qui est une grande dame qui fait beaucoup justement aussi dans le nord de la France. Voilà.
Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Merci à elle, merci à vous. Nous, on se retrouve après pour les petites interviews. Petite pause de 2 minutes, ce serait cool. Merci.
La place. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talks. Par La Place.